bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le dimanche 4 avril.
Wow.
Qu'est-ce qui se passe-t-il ?
Je ne sais pas, il y a un bug.
Eh ben on reprend, c'est pas grave, on est des pros. Nous sommes le dimanche 4 avril 2021, il est exactement 11h30 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 60e volet de l'Entrepode en direct de Podrennes, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, une équipe au grand complet, mais à demi, car nous sommes 4 de la troupe sur 8, donc la moitié, mais la bonne moitié. En gros, la chantilly sur le liégeois, la banana sur le split, les pruneaux dans le phare, la guéménée dans la galette, les bulles dans le champagne ou l'alcool dans le sous-chêne. En gros, le haut du panier. Car oui, le bas n'étant pas chaud pour parler en public, timidité oblige, vous connaissez Didouille, ce sera cette moitié d'entrepôt qui vous servira pendant 7h30. Mais comme disait ma grand-mère, et ce n'est pas avec un panier percé que tu pars aux champignons ni aux hérissons, sursu, si tu veux trouver des chardons moelleux, ok, ça veut rien dire. Je tout le temps, donc je voulais vous en faire partager. C'est avec bravoure et fierté que je vais présenter la team du jour. Et en ce week-end, Pascal, il est bien présent, on aurait raté ce rendez-vous pour rien au monde. Ah oui, Podrennes, le rêve pour qui aime l'alcool et faire des belles fiestas au dé de sous-chaîne. Oh mon Dieu que j'aimerais voir ça. Mais pas pour lui. Pour lui, c'est plutôt Gina ou Cacolac. Ou au pire, un verre de cidre, mais avec une telle quantité d'alcool, je ne réponds plus de rien. Et lui non plus. La seule fois où je l'ai vu se retourner avec 20 centilitres de kir, Dame Dido, il a failli appeler le 15. C'est dire, pas fort sur l'alcool, le gars. Mais bon, sa moitié et moi buvons pour lui. Puis, il faut bien qu'il ramène la voiture. J'ai nommé Monsieur Lulu.
Bonjour.
Ah, et quand Ludo. On parle du haut du panier, hein, on voit à peine ses cheveux qui dépassent. Et pourtant, il est bien debout dans le panier. L'homme de tous les courages, sur qui on peut se reposer. La main forte, le poil luisant. Avec cette petite étincelle au fond des yeux, hein, que si elle jaillit, donnera naissance à l'horrible JR, son double alcoolique. Qui, je me demande bien s'il aime le chouchène et la décadence, celui-là. Peut-être nous fera-t-il l'honneur de décortiquer les chroniqueurs ici présents et le reste de la team cachés derrière leur écran. Toujours est-il qu'ils sont bien là, tous les deux, pour notre plus grand plaisir, j'ai nommé Arnaud.
Bonjour, bonjour deux fois du coup.
Ah, et qui je vois, mais oui, ce petit maître vénéré. Alors lui, pas de soucis. Sous-chêne, bière, cidre, blonde, rouge, brune, ambrée, tout ce qui a des bulles et qui peut apporter de l'alcool et de la bonne humeur, c'est pour lui. L'investigateur de l'Entrepôt, le créateur des ondes, l'immense, le généreux, le chef, comme il se fait appeler. Le gars à qui je donne en dernier mon coup de cœur et qui ne me dit même pas « Marius, putain, bordel, l'émission, c'est dans 20 minutes !» Non, lui, il me dit « Marius, la prochaine fois, bah, tu pourras me le donner un tout petit peu plus tôt, mon petit chat. » Alors, il est gentil, il est mignon, il est sympa. Alors, c'est à toi de reprendre les rênes de l'émission. Montre on montre ce que quatre gars sympathiques peuvent faire avec pas grand-chose aujourd'hui. Ce sera la team sous-chaîne et l'entraîneur, le coach, c'est Nico. À toi, mon grand.
Eh ben, dis donc, merci. Quatre garçons dans le vent. Alors, Ludo, si je peux me permettre.
Oui, t'es vraiment dans le vent avec ton micro. Ouais.
Ah, c'est horrible.
Ah, bah, c'est bizarre. Faudrait que tu l'éloignes un petit peu, voilà, pour nos auditeurs.
Éloigne.
Pour les gens qui sont en live, parce que nous sommes en live pour cette édition de Podrennes 2021. Donc, c'est la troisième fois qu'on est au programme de Podrennes. Deuxième fois à distance, mais on est là, on est en live, on est parmi vous. Vivement qu'on puisse y retourner pour de vrai, parce que s'ils veulent bien de nous, hein, parce que
visiblement, c'est un peu compliqué avec nous.
Parce que c'est quand même quelque chose de se produire devant un public, de discuter avec d'autres podcasteurs et surtout de rencontrer des auditeurs. Alors si vous nous écoutez, on espère pouvoir vous y croiser très prochainement et pourquoi pas d'ici l'année prochaine. Alors, si vous nous suivez régulièrement, vous savez que malheureusement, notre épisode qu'on devait faire la semaine dernière a été annulé, hein, pour les raisons que vous savez, mais ça n'est que partie remise, c'est ce qu'on espère. Et puis pour notre retour, il y a un mois, on a eu plein de super messages de nos auditeurs nous disant qu'on vous manquait, que vous étiez très heureux de nous retrouver. Et donc ça fait très très chaud au cœur et ça nous motive encore plus à continuer.
C'est de dire la vie de merde qu'ils ont.
Cœur avec nous. Je sais pas le faire d'ailleurs.
Je vois ça. Alors c'est pas radiophonique, mais si vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il sait pas faire un cœur avec les doigts, quoi. Donc aujourd'hui, bah comme tu l'as dit, Marius, on est en équipe assez réduite. Freddy, c'est son anniversaire, donc il a préféré pas venir, il a d'autres priorités. Donc bon, ben voilà, on peut le comprendre. Donc il y a forcément non plus pas Christelle à nos côtés. Au fait, je me posais des questions. Vous avez des news de Christophe là, suite à la dernière chronique d'Arnaud? Vous savez si son cheveu s'est pas fondu avec son cheveu. Non, là, malheureusement, il était pas dispo, Christophe. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc on lui fait des gros bisous. Et on espère tous se retrouver très prochainement, en poussant un petit peu les mèches, et puis voilà. Didouille, elle fait sa timide, voilà. Mais peut-être qu'elle passera faire un petit coucou, je sais pas, Ludo, est-ce qu'elle a prévu de passer une tête? Non, pas vraiment.
Bah, ça dépend, si elle est encore en pyjama, ça va être compliqué.
Je crois qu'elle est sur la partie de l'écran qu'on voit pas, là.
Plutôt vers le bas. Ok.
Voilà.
Ah, j'avais pas compris moi.
Et puis bah Starlet, elle est là, elle est à côté de moi, mais comme elle m'a dit, bah j'ai galéré à me débarrasser des Kenkyu, c'est pas pour me les taper dans l'entrepode. Donc vous ne la verrez pas, vous ne la verrez plus. Mais en fait, elle participe quand même un tout petit peu à Podren, puisque si vous suivez l'édition depuis hier, elle fait partie de la programmation musicale avec Saperly Starlet, et je crois que même que Marius il est dedans aussi. Avec le morceau qui passe. Voilà.
Ouais, ça se pourrait bien, ouais.
Et donc, ça doit être.
Bad guy.
Je crois, exactement. Je crois que ça doit être la première fois en 8 ans qu'on a aucune fille au micro dans une émission de l'Entrepode. Donc, qu'entre voilà, gars, ça va pas
ça,
être très.
C'est top.
Ça va. Voilà, je sais pas si ça va le faire baisser, on verra bien. En tout cas, on est pressé de se retrouver tous ensemble et tout le monde autour de la table. Voilà. Avant de lancer l'émission, voilà, on prend notre temps parce que nous on a 1h30 hein, par rapport à tous les autres qui ont 1 heure pendant Podren. Nous on est tranquille, d'autres cool, décontracté. Je voulais saluer une initiative complètement folle. On en parlait tout à l'heure, celle de Gauthier. Donc les de l'Entrepode, ils connaissent un peu. Donc qui a découvert l'Entrepode il y a peu de temps, hein, fin 2020, et il s'est lancé dans un marathon de fou. C'est-à-dire qu'il a commencé le 22 décembre et bientôt. Il va avoir écouté tous nos épisodes depuis 2013, soit environ 90 émissions avec les hors-séries, parfois plus de 2 heures, bien sûr. Je sais pas du tout combien de temps ça représente au total, mais il va avoir fait tout ça en 4 mois à peine. Donc je trouve ça complètement fou. Je voulais le noter parce que c'est assez marrant. Il nous fait des retours quasiment à chaque fois.
Sympa.
Donc c'est vachement sympa. Et puis ça rafraîchit la mémoire parce qu'on se rappelle pas toujours de tout ce qu'on a dit. Et avec le recul, des fois c'est décalé ou c'est un petit peu drôle, voire les deux. Quand on avait présenté les nouveautés du futur à une époque, c'est-à-dire Snapchat ou la 4G comme étant les technologies, voilà, on était quand même
à la
technologie.
Pointe.
Quoi,
tu m'étonnes.
C'était fou. Par exemple, ce qui me fait rire, c'est quand il découvre qu'il mange des frites saucisses de Marius chaque année au Puce Moto. Voilà, c'est des petites choses, des petites anecdotes assez marrantes. Comme
c'est drôle,
le monde est petit. Quoi. Et donc aujourd'hui, attends.
Vas-y, mais puisque je rapidement, du coup, t'as regardé un peu des Cisas, j'ai vu passer en diagonale.
On a commencé.
Et c'est d'avoir un petit retour.
Eh ben, écoute, on a commencé des Cisas hier, on a regardé 4 épisodes et on rejoint tout ce que t'as pu dire pour l'instant.
Ah bon,
voilà. Ça commence très très bien, ça donne envie de regarder la suite. C'est cool. Une bonne recommandation encore, mon Ludo. On verra si celle d'aujourd'hui, pas le même effet.
C'est un bon petit pépère, ça.
Un bon petit pépère. Et on va
mélanger en fait.
Présentons la journée, hein, cette matinée, pardon. Donc un épisode forcément sans invité, ça signifie que des rubriques de la bande. Donc on en aura 4 aujourd'hui et on terminera avec nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, voilà, c'est le découpage habituel de nos émissions. Et je vais commencer bien sûr comme d'habitude par remercier nos tipeurs dont certains doivent nous suivre en direct là je pense en habitué et en participant de Podren qu'ils peuvent être je pense notamment à Benjamin, Arnaud Doucet, Cobal, Monsieur Finto ainsi qu'Isabelle, Isabelle et Mathieu. Voilà, merci à tous et à toutes de nous soutenir.
Alors, ouais, merci.
Il y a un chat. Alors pour l'instant, je ne le suis pas, mais n'hésitez pas à interagir.
Pour l'instant, visiblement, il nous voit pas. L'image est figée.
Enfin, ah bon ? En tout cas, il y a G-Code qui dit qu'elle aime bien les pyjamas. Voilà, c'est ce que je vois comme information pour Didouille. Donc, elle veut bien que Didouille vienne en pyjama.
Elle réclame Didouille et Starlet, quoi.
Ah ouais, mais oui.
Ah bah oui, Didouille.
Nous aussi,
Didouille,
on les aurait bien réclamé.
Mais sur la con.
C'est
un petit peu ça. Et donc, pour commencer. Vous le savez, si vous nous suivez encore une fois, on a cédé aux sirènes de la podcast monnaie. On est là, on veut récupérer de la thunasse.
Attendez, j'ai une exclue. Ah ben, Didouille en pyjama.
Ça va nous faire
en pyjama.
Ça aussi, ça peut nous rapporter de la thunasse en fait. Allez Didouille, viens.
Allez Didouille.
Elle est là, Didouille.
Donne à Tipeee.
5 euros.
Si tu veux qu'elle ouvre la porte, donne à Tipeee.
Eh ben, tu te crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire parce que effectivement, pour récupérer de l'argent de la podcast monnaie, on a lancé une régie publicitaire sur le coup. Et cette fois-ci, encore une fois, elle nous a pas déçus puisque nous avons reçu une pub en exclusivité de dernière minute. Et donc, on s'arrête pas en si bon chemin et on commence l'émission par une page de pub parce que c'est quand même ça qui nous motive. En premier lieu,
avant toute chose.
Attention, c'est parti.
Bonjour Nanette, qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui ?
Eh bien, Marius, aujourd'hui, je vous présente la vente phare de notre catalogue, la formule magique pour exceller dans les soirées de l'ambassadeur ou pour faire fureur lors de repas entre amis.
Oh, mais c'est formidable ça, Nanette ! Quelle est donc cette formule pour briller en société ?
Eh bien, mon beau petit lapin de Pâques, je vais vous le dire, il suffit pour briller en société de donner au Tipeee de l'Entrepode. Et oui, un simple don peut vous donner joie, richesse et surtout de l'importance auprès de vos amis.
Ah, mais je brûle d'impatience de savoir combien je dois donner à Tipeee, notre pote, pour avoir la chance, je dis bien la chance, d'être de briller en société.
Eh bien, Marius, c'est tout simple. Et surtout à la portée de chaque bourse. Oui, je dis bien chaque bourse. Exemple. Pour une formule 3-4 amis, donnez 5 euros à Tipeee de l'Anthropode et vous donnerez à chacun de vos convives une petite lueur dans leurs yeux avec le pack apéro champomie.
Oh là là, 5 euros, mais c'est tellement peu, c'est tellement peu, c'est tellement génial.
Oui, Marius, mais donnez 10 euros à Tipeee de l'Anthropode et vous passez de 5 à 8 amis. Et avec ce pack, nous vous donnons deux histoires drôles à raconter pour briller en société, en plus d'une bouteille de champomie saveur pomme.
Oh là là, mais c'est du délire.
Bon, et si vous voulez vraiment une pure soirée...
Oui, oui, Nanette, oui, je veux.
Eh bien, Marius, la pure soirée est à 20 euros. Certes, c'est une somme, mais à ce prix-là, vous avez les deux histoires drôles, la bouteille de champomie saveur pomme et une danse du ventre de dame didouille déguisée en citrouille, si vous avez la chance de prendre cette option à Halloween.
Ah, mais alors là, je fonds. Vous voulez dire, Nanette, que si je donne 20 euros à Tipeee d'Anthropode, je repars avec deux histoires drôles pour briller en société, une bouteille de champomie saveur pomme et une danse du ventre de dame didouille déguisée en citrouille. Oh là là, mais c'est terrible, je fonds. Alors toi aussi, si tu veux briller en société, donne à Tipeee.
Que dire de plus? En fait, c'est un petit peu.
Je sais pas, il y a pas grand chose à dire. En fait.
Ah ouais, puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que on investit l'argent du Tipeee dans des pubs pour donner de l'argent au Tipeee. C'est quelque chose d'un petit peu spécial. Donc voilà, en tout cas, je trouve moi que c'est de l'argent quand même vachement bien investi. Encore une fois, on a quelqu'un de très créatif. Je sais pas qui c'est ce créatif fou qu'on a au bout du film. En tout cas, ça mérite. On essaiera de vous faire passer les coordonnées si vous aussi vous avez besoin de vous mettre en avant de façon qualitative, hein, parce que là, c'est vraiment le haut du panier.
À mon avis, c'est un genre de branleur de publicitaire à cheveux longs, tu vois.
C'est possible. Je pense que c'est ça. Eh ben, écoutez, sans plus tarder, parce qu'on a quand même un créneau à tenir, hein, donc je vais passer la parole à Monsieur Lapin de Pâques, là, justement, qui nous montre un petit peu son petit lapin à la caméra. C'est un vrai lapin, hein, pour ceux qui ne voient pas, c'est pas quelque chose de vulgaire ou d'obscène. Ça dépend de l'angle, peut-être. Les trucs obscènes, il les a fait avant. Et donc, Ludo, je vais te passer la parole pour que tu nous présentes un sujet. Parce que
il a cassé
le lapin. Tu es prêt?
C'est Pâques. Oui, bien sûr que je suis prêt.
Je te lance.
C'est maintenant la parlette de trône. Hello and welcome. Hit the record button.
Il t'a plu le film?
Alors, eh bien, nous parles-tu d'un film?
Ouais, mais oui, je vais parler d'un film. Oh, c'était compliqué, hein. Mais voilà, on y est arrivé, voilà. Alors, c'est que c'est Pâques aujourd'hui, enfin Pâques aujourd'hui, demain. Et donc Pâques, qui dit Pâques, dit week-end de célébration religieuse où l'on renoue avec le sens du sacré. L'occasion, mes fidèles apôtres, de découvrir ou redécouvrir un classique, une œuvre tournée vers la foi. Pour moi, c'est important. La croyance religieuse, l'aspiration de l'humanité à trouver des réponses aux questions qui la taraudent, eh bien, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, bon, je pourrais vous causer d'un paquet de choses, parce qu'il y a un paquet de films qui tournent autour de tout ça. Je pourrais vous causer de Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vu, mais c'est un film qui était sorti en 77. Un film sorti en 77, deux parties. Mes parents m'avaient emmené avec mon frangin voir ce film-là à l'époque. Au cinéma, le truc, la fresque où en fait on retraçait la vie de Jésus de la naissance jusqu'à la mort. Oh là. Bref, une reconnaissance minutieuse de la vie de Jésus, un pensum sublime. Enfin sublime, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas c'était quand même quelque chose à voir. Mais je vais pas vraiment vous parler de ça parce que c'est un peu chiant. Voilà, on va l'écarter celui-là. Du coup, je me suis dit,
c'est un bon argument.
Je pourrais parler d'un truc un peu plus fun, quoi. Genre La Passion du Christ de Mel Gibson, sorti en 2004. Ça, c'est un bon film gore. Vous voyez, un truc un peu bien, un peu trapu. Voilà. Celui-là, pareil, je l'ai finalement esquivé. J'avais envie d'un truc un petit peu plus léger. Du coup, je me suis dit, mais il reste peut-être le Scorsese, là, La Dernière Tentation du Christ. C'est plutôt pas mal, ça et tout. Ouais, le problème c'est que je l'ai pas vu celui-là, donc c'est un peu compliqué pour vous en parler. Mais je trouve que c'est sympa. Puis bon, c'est le mec, il est sur sa croix et puis il y a Satan qui vient le voir et qui lui dit bah tiens, je vais te soumettre à la tentation de vivre une vie ordinaire d'un mec marié avec des gosses. Bref, juste pour l'anecdote, j'en profite, une petite parenthèse. Hein, vous connaissez mes comment on appelle ça, quand je pars
un travers, peu,
un peu, dans mes travers,
c'est en escalier quoi. Tu vois,
c'est... oui, parce que je vais pourquoi je trouve ça rigolo, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli. L'occasion de la sortie de la dernière tentation du Christ, je vais citer hein, Franco Zeffirelli qui avait donc réalisé Jésus de Nazareth, avait dit à l'époque, il avait traité le film de Scorsese de pur produit de la chienlit culturelle juive de Los Angeles qui guette la moindre occasion de s'attaquer au monde chrétien. Bref, ambiance. Autant vous dire que sur ce climat-là.
Alors moi. Oui, moi, vas-y. Mon père l'avait vu, le Scorsese, juste avant de foutre le feu au cinéma.
Alors, moi, j'avais pas pu le voir à l'époque. Il y avait des mecs qui faisaient le pied de grue devant les cinoches pour empêcher, pour dire, oh là là, Satan, tu vas finir en enfer si tu vas voir ce film-là. C'était c'était en 88. Mais j'étais aux États-Unis à l'époque. Et à l'époque, c'était le film était vraiment comment avait été vraiment vu comme un comment je pourrais dire
un film
une œuvre de Satan quoi, c'était Satan en personne, et encore je dis Satan là-bas ils sont pas forcément c'était toutes les ligues religieuses qui s'étaient liguées, c'est le cas de le dire, pour aller empêcher les gens d'aller au cinéma et te jeter l'anathème sur la tête. Bref, enfin tout ça pour vous dire quoi, que je me suis dit que tout ça c'était un peu lourdingue.
Ça a l'air léger.
Non, c'est...
voilà. Encore
c'est
que
très esprit entrepode hein, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui.
Ouais, dans tout ça, je me suis dit celui qui m'aurait pu me faire marrer, c'était le film de Mel Gibson, parce que celui-là, je l'ai vu au cinéma, il était vraiment marrant. Je vous dis, c'était entre Evil Dead et Terminator, hein, surtout sur le plan final, mais peu importe. C'est pas, on va pas s'apesantir là-dessus. Non, je me suis dit, on allait alléger un peu le propos et plutôt sourire un petit peu beaucoup de tout ça. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de parler d'un truc un peu plus marrant, même bien marrant. Et pour moi, une référence incontournable. Alors, référence incontournable pour moi, mais aussi, je pense, pour ma génération. Et référence dans l'humour absurde. Ouais, donc d'après-guerre, exactement. Et en fait, un truc qui est vraiment une référence dans l'humour absurde et qui a influencé un paquet d'humoristes, notamment français, ça va des nuls au Robin des Bois, et même en passant par Eric et Ramzy, en fait. Bref, je sais pas si vous avez deviné, moi j'ai deviné en tout cas, ça me vient. Je vais parler bien sûr du film des Monty Python, La vie de Brian. Ouais, exactement. Un film de Monty Python réalisé par
Terry
Jones.
T'aurais dû me le dire avant, j'aurais pu passer une petite illustration sonore là pour finir.
Non, je comptais le faire.
Mais il ne le savait pas encore il y a 10 minutes.
Voilà, exactement. Et oui, parce que j'ai beaucoup hésité sur le film que j'allais évoquer, et puis celui-là est quand même un film vraiment, pour moi, vraiment à découvrir absolument. Alors, ce que je mesure pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport, je parlais de génération. Moi, je suis né en 70, donc après, évidemment, ce film-là, moi, m'a marqué à l'époque. Maintenant, je ne mesure pas ce que les Monty Python signifient, en fait, pour des générations peut-être plus jeunes. Pour moi, je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente, je ne sais pas pour les autres. Donc, je ne mesure pas, en fait, l'impact que peut avoir ce film-là. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler, en me disant, bah, au pire, les gens pourraient aller le revoir et dans l'idéal, le découvrir, là, vraiment, il faut aller le voir, parce que vraiment, quand on voit ce film-là, on mesure à quel point ce film est vraiment à l'origine d'un paquet de choses. Alors, très très vite, les Monty Python, juste pour présenter un petit peu pour ceux qui ne les connaissaient pas. Voilà. Alors, les Monty Python, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce à dire? Les Monty Python, c'est une troupe britannique hein, qui s'est rendue vraiment célèbre en Angleterre fin 69, début 70, avec une série de télé d'anthologie à l'époque qui s'appelait les Monty Python Flying Circus. Donc voilà, ils ont vraiment...
Starlet m'a offert le coffret il n'y a pas très longtemps.
Visible sur Netflix. Hein.
Ah oui. Voilà. Et alors là,
l'intégralité.
Ouais. Alors voilà, cette série-là, pour le coup, ils ont officié entre fin 69 et 74. Et donc vraiment, c'est là vraiment qu'ils ont acquis leur lettre de noblesse. C'était diffusé par la BBC. Alors donc ces gars-là, c'est six mecs à Grapp Chapman. En fait, on va reconnaître des noms hein, Terry Gilliam, John Cleese. Il y a un buzz, c'est moi peut-être, non?
Je sais pas. C'est bon. Marius, non?
Non.
J'entends rien.
Non, j'entends rien. Tout va bien. Pourquoi moi tout de suite
Je sais pas. Parce qu'il fallait bien quelqu'un, donc.
Voilà, pardon, c'est pas beau, monsieur. Vous me censurez. C'est un.
Ludo, apparemment, une bonne nouvelle. Tu fais le buzz.
Je fais le buzz. Donc, je disais, donc en fait, cette troupe-là, il y en a, on en connaît certainement. J'en reparlerai un peu. Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle. Voilà, c'était six gars qui constituaient donc les Monty Python. Avec des fortes personnalités chacun. Savoir juste que Terry Gilliam est le seul américain, sinon ce n'était que des anglais, qu'une bande d'anglais, quoi, une bande de roast beef, hein, voilà. Oh non, j'adore l'Angleterre. Donc, comme je vous dis, et leur marque de fabrique, c'est l'humour absurde, principalement. Donc, c'est là-dessus qu'ils ont vraiment fait toute leur renommée. Après l'arrêt de la série en 74, les Monty Python commencent une carrière au cinéma. Et donc, ils vont commencer une carrière au cinéma avec leur premier film, en fait, qui est connu, qui était effectivement Monty Python Sacré Graal en 75, qui est vraiment, alors, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais.
Burn the Witch!
Voilà, exactement. Bon, c'est, là, encore une fois. Alors, un film assez, encore assez relativement, avec une structure assez à sketch, entre guillemets, si vous voulez, hein, dans l'idée. C'est vraiment avec le suivant. En 79, avec la vie de Brian, que là, pour le coup, ils vont avoir un film qui va être beaucoup plus structuré dans l'approche avec une histoire. Quelque chose de beaucoup plus, pas réfléchi, mais en tout cas, voilà, plus structuré en termes de narration. Bon, je parle de la vie de Brian, et la vie de Brian, bah, de quoi ça cause pour ceux qui ne le sauraient pas? Alors, bah, la vie de Brian, c'est simple, on suit la vie d'un type ordinaire qui s'appelle Brian Cohen. Et ce Brian Cohen, bah, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est que, en fait, il est né dans l'étable voisine de Jésus. Et il est né à la même heure, au même moment que Jésus, ce gars-là. Et en fait, pendant toute sa vie, donc on va le suivre au début, et puis 30 ans après, on va suivre ses pérégrinations à ce gars-là. Et on va toute sa vie, enfin, toute son histoire va se retrouver vraiment intimement mêlée avec la vie du Christ. Et, mais en fait, ça se retrouve mêlé, mais dans un bordel complètement hallucinant, en fait. C'est juste complètement délirant. Et je dirais même que le film est alors on va le suivre jusqu'à la fin de la vie de Jésus qui est la crucifixion, en fait. Mais enfin, quand je dis la fin de la vie de Jésus, oui,
putain, tu m'as spoilé la fin de la vie.
Non, oui, c'est la fin de la vie de Jésus, mais je parle de la fin officielle de Jésus. Enfin bref, en tout cas, on va suivre tout ce parcours là jusqu'à l'épisode de la crucifixion sur le Golgotha. Je sens que j'en dise plus, en fait. La seule chose que je peux dire, c'est que il est juste impossible réellement, enfin, il est impossible de résumer ce film. En tout cas, c'est pas qu'il est impossible de le résumer, c'est juste que ce qui est très difficile, c'est que le film est un télescopage de situations complètement surréalistes, de personnages improbables, de dialogues complètement porte-nawak. Et tout ça s'enchaîne sans temps mort, comme je dis, jusqu'à un final, et là, c'est ce qu'on en parlait, jusqu'à un final chanté en chœur.
C'est fou.
Complètement surréaliste. Et c'est vrai que je voulais pas trop le dévoiler, parce qu'encore une fois, je pense que le film, enfin, en gros, le plaisir du film, c'est aussi la surprise de découvrir les gags, oui. De découvrir les enchaînements, de découvrir les chansons. Et c'est pour ça que finalement, je voulais pas trop, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas trop envie, en fait, de m'étaler là-dessus. Sachez juste que, parce que quand même quelques petits trucs pour donner, entre un Brian qui vend des casse-croûtes dans un amphithéâtre, qui en fait sont en fait des organes de gladiateurs morts, hein, que sa mère elle ramasse après les combats, vous avez des organisations terroristes qui traversent le film. Alors des organisations terroristes bureaucratiques. Alors vous avez le Front Populaire de Judée. Hein, qui va se battre d'ailleurs contre son adversaire Galilée Libre qui poursuit exactement le même objectif et c'est exactement le même but. Voilà, vous allez aussi avoir donc toute une foule complètement fanatisée qui va prendre Brian pour le Messie. Hein. Bon, je spoil pas vraiment.
Voilà, tu spoil. Voilà,
non, bravo. Pas vraiment, parce que c'est vraiment on se rend bien compte qu'à un moment Brian va être pris pour le Messie et que c'est tout ce concours de circonstances qui va l'amener sur ce parcours. Et en fait, Ce qui est drôle, c'est comment en fait la foule va interpréter le moindre de ses faits et gestes, ouais. À ce Brian pour en faire en fait une espèce de d'idole, hein, d'idole religieuse. Ouais. Alors après, vous avez aussi tout un d'autres personnages comme la mère qui est un personnage, je veux dire, qui est joué par Eric Idle, qui c'est à mourir de rire, puisqu'en fait elle joue une espèce de mère juive complètement vénale. Ce sont vraiment, encore une fois, et vous avez même une participation surprise de, je devrais peut-être pas le dire, le dirai pas d'ailleurs, finalement je l'avais écrit, je ne le dirai pas. Il y a une espèce de moment où Brian va s'enfuir et être enlevé par des personnages. Je ne peux pas en dire plus. C'est complètement surréaliste. Voilà. Et vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Voilà. Et c'est un festival. C'est un festival du début à la fin. Donc voilà. Voilà sur l'histoire. Alors le film, donc évidemment, est extrêmement moqueur, en fait, il n'est pas moqueur de Jésus ou de Dieu d'ailleurs, il est plutôt, ou de ses préceptes, en fait il est surtout moqueur, le film, de la crédulité des gens. En fait son cheval de bataille, c'est en fait les gens qui se mettent à suivre des personnages, des personnes, des gourous, ce que l'on veut, et qui se mettent surtout à adorer des gens en interprétant, en surinterprétant la moindre des paroles, et je dirais, mais de la manière dont ça les arrange, pour en fait, je dirais, avoir une espèce de réponse à leurs propres conditions humaines. Et c'est ça qui est assez génial, parce que je trouve que du coup, et c'est en ça que d'ailleurs, c'est John Cleese, si je dis pas de bêtises, les Monty Python à l'époque avaient répondu, j'ai lu un extrait là-dessus, où ils expliquaient que leur film était plus hérétique que blasphématoire. Je mets ça entre guillemets, hein, c'est vraiment un propos des Monty Python qui disaient qu'en fait, ils étaient plus, encore une fois, à se moquer des pratiques religieuses, etc., mais pas blasphématoire au sens où on ne se moque pas de la religion ou de Dieu ou de Jésus en lui-même. Et je trouve qu'en ce sens, moi, le film, il est super moderne. Il est super moderne parce que c'est un film quand même qui date, encore une fois, qui date de 79. Hein. On pourrait se dire, ouais, d'accord.
Il a donc 42 ans.
Mais en réalité, moi, je trouve qu'en ces temps de complotisme à tout va, certains sont prêts à croire à n'importe quoi dès lors qu'ils ont suivi, qu'ils pensent que ça va correspondre à quelque chose qui peut leur parler, ils sont prêts à suivre les théories les plus fumeuses qui peuvent exister sur le net sans aucun recul critique. Et à créer, alors en plus avec cet effet je trouve démultiplié par les réseaux sociaux, moi j'y retrouve vraiment quelque chose là-dedans. Il y a des dialogues, etc., qui sont super savoureux. Et comment certains, on va dire, influenceurs vont entraîner le reste de la foule dans une espèce de délire de masse. Et bien en fait voilà, je trouve que ça fait vraiment écho. Et quand on regarde le film comme ça, alors il s'agit pas d'aller, après l'idée c'est pas d'aller trouver les messages là où il y en aurait pas forcément, mais
ça serait dommage de le faire justement sur un film.
Je ne parle pas de théorie. Là je parle plutôt de quand je parle de message, je parle de discours, en fait, si tu veux, de d'une portée d'un film qui se veut un peu, qui se veut caustique, qui se veut justement moqueur par rapport à tout ça. Bien, je trouve que justement le film, on peut le regarder avec cet œil-là, et c'est très drôle de le voir avec ce recul là.
Je me permets de te couper juste deux secondes sur le chat, il y a Arthur Franck.
Ah, je vois pas le chat.
Je le lis là, et ça me fait penser depuis le début, c'est vrai que même si c'est assez éloigné, enfin qu'il y a deux humours différents qui se mettent en parallèle, ça me rappelle aussi un petit peu 2h-4 avant Jésus-Christ de Jean-Yann. Il y a quand même un petit peu cette espèce de fanatisme de personnes qui est pas là au bon endroit à la bonne place, mais qui se retrouvent à porter des responsabilités qu'ils dépassent complètement. Et puis le côté absurde est quand même là, même si il y a du côté l'humour anglais, l'humour français de Jean-Yann, mais finalement il y a des choses qui se rejoignent. Je suis complètement d'accord. Avec ce que dit Arthur.
C'est marrant de voir qu'il y a effectivement au niveau des humoristes français, etc., à quel point ils ont été influencés par cet apport des Monty Python, et notamment 2h-4 avant Jésus-Christ, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant. Ouais, carrément. Mais je suis complètement d'accord, effectivement. Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'évidemment, on voit tout cet humour, cette absurdité, etc. Et ben, en fait, ce qui est quand même, on retrouve toujours la même chose, c'est qu'à l'époque de sa sortie, et ben, il y a plusieurs groupes chrétiens qui ont protesté, hein, qui se sont émus du film, qui le jugeaient justement blasphématoire, qui ont été choqués notamment par la scène de la crucifixion. Hein. Là encore une fois, je ne peux pas trop en dire, mais cette scène de crucifixion, on va dire chantée, voilà. Always look on the bright side
of life.
Moi, je peux pas siffler. Voilà, exactement. c'est quand même un monument, une chanson qui avait été écrite par Eric Idle de Monty Python. Et en fait, faut savoir que le film a été interdit dans plusieurs villes en Angleterre. Et alors, ce qui est drôle, alors ça, j'ai récupéré l'info sur le net. Ce qui est assez, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est que c'est des conseils municipaux qui ont pu interdire le film, et même dans certaines villes où il n'y avait pas de cinéma, ce qui est super drôle. Quand on dit pour
je trouve que ça,
j'ai trouvé ça génial, en fait, comme anecdote, parce que c'est là pour le coup, on est vraiment dans un truc, voilà. Bon après voilà, il a été interdit 8 ans en Irlande, il a été interdit 1 an en Norvège, ce qui a fait dire dans une publicité en Suède que le film est tellement drôle que les Norvégiens ont dû l'interdire. Ça, je trouve ça marrant. je trouve que ce genre de truc-là est drôle parce que justement, encore une fois, ça participe à la, justement, à cette aura du film. En fait, on est complètement dedans. Donc voilà. Juste deux, trois petites choses. Ça, c'était un peu l'accueil du film. L'accueil, par contre, le film, effectivement, a très bien marché par ailleurs. Hein. Quelques petites choses alors, que je ne savais pas, que j'ai appris en faisant deux, trois petites recherches sur le film. C'est que, alors, les membres de l'équipe, alors, je m'en doutais, mais je pensais pas dans cette mesure-là, puisqu'en fait, j'avais reconnu des acteurs, puisqu'en fait, la troupe, elle est là. Hein, ils sont six dans le film. Et bien, en fait, hormis, c'est Graham Chapman qui joue, deux ou trois rôles identifiés. Oui. Sinon, les cinq autres jouent 40 rôles à eux cinq. 40 rôles.
Oui.
En fait, c'est juste que c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'un va jouer le rôle de la mère, l'autre va jouer le machin, le syndicaliste et en même temps jouer le Néron, enfin Pilate, Ponce Pilate, pardon. Ah oui. Voilà. Et en fait, ils se mélangent tous là-dedans et c'est super drôle. Puisqu'en fait, entre que ce soit des gens de la foule, que ce soit l'ermite, que ce soit tous, en fait, c'est eux qui incarnent ce personnage-là. Et donc, du coup, on peut aussi revoir, quand on a vu le film, on peut le revoir en s'amusant et en prenant vraiment plaisir à essayer de retrouver le truc. Film absolument à voir en VO, hein. Par contre, je précise, c'est super important. C'est oui. pas que je fais pas, je ne fais pas mon snob. C'est pas genre, les voix des personnages sont tellement drôles. En fait, encore une fois, je pense à Eric Idle quand il joue le rôle de la mère de Brian. C'est un festival. Ouais, c'est un festival.
C'est hystérique. Enfin, on sent. Ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment sympa, ouais.
Ce que je veux dire ensuite, alors, et dernière petite anecdote assez marrante, savez-vous qui a produit le film?
Alors là, pas du tout.
Non, je l'ignore.
Non, aucune idée. Eh bien, en fait, il faut savoir que le film, le président du conseil d'administration de IMAI, IMAI Film, qui avait décidé de financer le film, eh bien, a refusé à la dernière minute de financer le film. Ah. Et en fait, le projet a été sauvé par George Harrison, des Beatles, d'accord. Exactement, qui en fait a créé une société de prod qui s'appelle Handmade Films, juste pour financer le film. Et c'était 5 millions de livres hein, de budget, le film. Il a financé, il a puisé dans sa fortune personnelle, il a hypothéqué sa baraque pour que le film puisse se faire. Ouais, carrément.
Et ça, en c'est fait, une anecdote, en gros, ça. L'idée...
Ouais, et l'histoire anecdote. Dit qu'en fait, l'histoire dit que il avait lu le script et qu'il voulait voir le film, ce qui a fait dire au Monty Python qu'en fait c'est en fait le billet de cinéma le plus cher qu'on ait jamais vu au cinéma, quoi. Donc ce qui est marrant, quoi. Voilà. Pour finir, juste savoir que les Monty Python après ce film-là ont réalisé un autre film ensemble qui s'appelle Le sens de
il y a un tracteur
de
l'hélicoptère
ou un avion, ouais. Après ce film, ah, c'est chez Monsieur Marius. Ah,
Marius, ça a l'air coupable.
Ah, pour le coup, c'est chez la machine moi, qui vais, sort. Je vais essayer de faire ce que je peux. Ne vous inquiétez pas, je reviens.
Et donc, les Monty Python après ce film ont réalisé donc un autre film qui s'appelle Le sens de la vie en 1983. Oui. Oui. Toujours réalisé par Terry Jones et là où on est plus proche de la structure à sketch. Je vais pas me pesantir sur le film parce que encore une fois, je voulais surtout parler de la vie de Brian aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'après ce film-là, chaque membre des Monty Python sont partis sur, on va dire des projets très personnels dont vous avez tous forcément entendu parler. Hein. Je dirais que pour moi le plus évidemment le celui qui est à mon sens, qui a vraiment été, qui a eu une carrière vraiment très 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 connue, notamment comme réalisateur, c'est bien sûr Terry Gilliam, avec voilà Gilliam. Brasil notamment, le Baron, les aventures de Baron Munchausen. Il y en a eu. L'armée des douze singes. J'en cite deux, trois, on peut en citer. Allez-y si vous en avez. Mais enfin, bref, tout le monde a au moins vu, je pense, un film. Enfin, tout le monde, pas de forcément, Gilliam, mais ouais. De Terry Gilliam. En tout cas, voilà. On peut citer Un poisson nommé Vanda avec John Cleese, Michael Palin. Bref, chacun est allé dans différentes choses, différents films. Et puis, les Monty Python, finalement, je veux dire, ce sont les Monty Python n'ont plus vraiment existé. Si ce n'est qu'il y a eu il y a eu 10 spectacles qui ont été organisés en 2013. Hein, c'était un peu l'ultime spectacle. Graham Chapman est mort, je crois, entre temps d'un cancer. En 2013, je sais plus s'il était encore vivant au moment de leur dernier spectacle. Ils ont fait un dernier spectacle qui a fait 10 dates en Angleterre. Juste pour la petite anecdote, hein, 20 000 billets vendus en 45 secondes, a priori, ça a été un truc. Et après, ils en ont ressorti 9 autres dates qui ont été toutes complètes. Et voilà. Et à partir de là, les Monty Python, c'était vraiment, on va dire, le chant du cygne. Mais voilà, tout ça pour vous dire, si vous avez l'occasion, vraiment, vraiment, il est sur Netflix. Donc moi, c'était à l'occasion de... Bah, justement, j'ai pris plaisir à revoir ce film que j'avais vu il y a très longtemps. Je l'ai revu sur Netflix et c'est un vrai bonheur de revoir ce film. Ah, vraiment, c'est un vrai plaisir. Donc,
il m'a donné envie de le revoir.
Exactement. Donc surtout, allez-y, foncez. Et puis, puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Au plaisir, monsieur, dame.
Bien
et
sûr.
Joyeuse Pâques.
On le recommande tout à fait, ce film. Tu l'as très bien vendu et ça me donne envie de le revoir, effectivement. Donc, c'est vraiment un super truc. Vous l'avez tous vu autour du micro, là?
Oui.
Moi, non, pas moi, non.
Pas moi non plus.
Non, mais j'aimerais bien, en fait. Et c'est peut-être un truc que j'ai vu, je me rappelle pas.
Si tu as l'occasion, regarde-le vraiment.
Oui, j'ai regardé. J'étais en train de me battre avec le mec à côté qui passait sa tondeuse, donc.
Ah, c'est la tondeuse, ok, d'accord. Mm-hmm. Eh ben, très bien. Alors, on a un temps qui est un peu timé, donc on va pas avoir beaucoup la possibilité de s'étendre. Donc, on va passer directement à la suite avec une nouvelle rubrique. Et cette fois-ci, ça sera moi dans un tout autre style. Enfin, on verra bien.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. D'accord, chabou, tadouti.
L'éléphant de tiroir. Je me permets de juste compléter parce que je vois sur le chat que ça a fait beaucoup beaucoup réagir ta rubrique Ludo, donc ça semble avoir plu, donc tant mieux, c'est cool, ça trouve son public.
Ah, super,
et beaucoup
super.
De gens sont d'accord avec toi, donc voilà, c'était pour la petite super, anecdote, c'est cool l'interaction.
Merci à tous en tout cas, c'est chouette.
Alors, à mon tour, moi je vais rester dans une thématique série qui semble devenir un peu un rituel pour Podren, puisque après The Leftovers que j'avais présenté en 2018 quand on était pu aller à Rennes, et puis The Shield l'année dernière, je continue avec une autre série. Alors d'ailleurs, je parle souvent de séries dans les épisodes classiques de l'Entrepod. Vous connaissez mon enthousiasme notamment pour la SF et Battlestar Galactica en particulier. Battlestar Galactica que j'avais présenté en 2017. L'année dernière, The Expanse, lors du festival de Pixel, série qui est souvent comparée à Battlestar Galactica. Et là, si je vous dis que c'est une recommandation de Draven qui fait le podcast Galactifrag, vous allez dire, putain, il est monomaniaque celui-là, il y a tout qui tourne autour de Battlestar Galactica. C'est pas faux, je ne démentirai pas. Donc, il va nous parler de Galactica de 78 ou un truc dans le genre. Même si je l'ai lancé tellement ils ont titillé ma curiosité avec Karine dans le formidable podcast Galactifrac, on dit jamais assez de bien de Galactifrac à mon goût, ou de Cornelius Enzira sur la planète des singes, ou de Hyperdrive sur Star Wars, ou bref, vous jetez la liste que vous voulez. On dit jamais assez de bien de tous les podcasts qu'on suit. Voilà, ça c'est mon point de vue, un petit clin d'œil au passage. Et donc,
on dit jamais assez de mal de ceux qu'on n'écoute pas.
Hein, je sais pas, vaut mieux pas en parler, voilà. Et donc, la série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est For All Mankind, qui est une série de Ronald D. Moore. Et quel est le lien avec tout ce que je viens de vous dire? C'est que Ronald D. Moore, c'est une des deux personnes, notamment, qui est à l'origine de la série réimaginée de Battlestar Galactica dans les années 2000. Alors, For All Mankind, c'est une série qui est sur Apple TV+, il y a deux saisons en cours actuellement, une troisième a priori qui est commandée, et donc il y a 10 épisodes d'une heure en moyenne, puisque ça s'étend entre 55 minutes et 1h16 pour chaque épisode. Alors, paradoxalement, je vais en parler alors que je n'ai vu qu'une seule saison à ce jour. C'est assez rare que je présente quelque chose pour lequel j'ai pas beaucoup de recul, puisque en plus je l'ai regardé cette semaine, donc c'est vraiment très 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 chaud. Et donc pour l'instant, je peux pas comparer avec Battlestar Galactica ou The Expanse. Mais si j'en parle, c'est que cette première saison, elle peut complètement être vue, je dirais indépendamment, je trouve, et se suffire à elle-même. Et je vais quand même continuer à voir la suite parce que ça m'a vraiment tellement plu que j'ai envie de voir ce qui va se passer derrière. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler de cette série, vous au micro ou même les gens sur le chat.
Bah oui, oui un peu, parce que je crois qu'il y a un certain Nico qui m'en a parlé un petit peu.
C'est ce que j'allais dire, la seule fois que j'ai entendu parler. C'est...
Le relou qui emmerde tout le monde quand il y a un truc qui lui plaît.
Pas du tout, parce que tu m'as donné envie de la regarder en fait.
D'accord. Ah ben, on va voir si ma chronique ne va pas, va aller dans ce sens encore une fois. Alors l'histoire. L'histoire, si je prends le synopsis que j'ai vu sur Allociné, c'est imaginer un monde dans lequel la course à l'espace n'aurait jamais pris fin, le programme spatial de la NASA est resté au cœur de la culture américaine et au plus proche des espoirs, des rêves de tout un chacun. Les astronautes de la NASA, véritables héros et rockstars de leur époque, doivent gérer la pression qui pèse sur leurs épaules tout en gérant la vie de leur famille. Jusque-là, c'est assez banal finalement, comme voilà, on va suivre les gens de la NASA, des péripéties comme d'autres. Mais en fait, c'est un sujet de dilemme pour moi, ce sujet. J'en ai parlé avec Arnaud, hein, parce que je sais qu'il est très sensible au spoil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un vrai twist dans cette série qui arrive très très tôt dans la série. Et donc, dès le premier épisode, on voit le déroulement des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc jusqu'ici, ça va toujours dans ce que je viens de vous dire. Mais en fait, le spoil dès le début, c'est que, et pourquoi je l'ai dit aussi, c'est parce que dès la bande-annonce et dans les synopsis classiques, on va le voir, c'est que finalement, le twist, c'est que c'est pas les États-Unis qui ont mis les premiers le pied sur la Lune, mais ce sont les Russes. Et donc, ils arrivent avant les Américains, et les Américains ont ensuite, tout au long de la série, le projet de rattraper les Russes et d'essayer ensuite de les dépasser dans un second temps. Donc, on est dans ce qu'on appelle donc une uchronie, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire avec un grand H à partir de la modification du passé. Donc, on a une histoire alternative, un peu comme si vous connaissez The Man in the High Castle, où on part du principe que un élément n'a pas eu les mêmes conséquences que ce qu'on a pu connaître nous-mêmes. Donc, par exemple, là, Neil Armstrong, dans cette série, dans For All Mankind, a bien marché sur la Lune, mais c'était pas le premier, c'était le deuxième. Donc, ça change beaucoup de choses. Alors, ça m'a forcément évoqué quelque chose pour nous. Si vous connaissez l'Anthropode, vous connaissez certainement Fred Duval. Et Fred Duval, il a une série de BD qui s'appelle Jour J.
Oui.
Ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un peu ce qui se fait dans Jour J. Et ben, vlatipa que le premier tome de Jour J, c'est les Russes sur la Lune. Le tout premier tome de Jour J. Et donc, c'est la même chose. 21 juillet 69, quelques minutes avant son alunissage, la mission Apollo est détruite. Et ce sont finalement, quelques mois plus tard, les Soviétiques qui sont les premiers à poser le pied sur la Lune. À Washington, le président Nixon donne carte blanche pour que l'Amérique devienne la première nation à établir une base lunaire permanente. Sans en dire plus, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à For All Mankind. Je ne sais pas si on peut parler de plagiat, s'il y a eu de l'inspiration, si c'est un complet hasard, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent. Je ne sais pas si Fred connaît cette série, je lui en parlerai à l'occasion. Donc, finalement, il s'avère que ce twist, qui est un élément scénaristique, ça aurait pu être réalité, parce qu'en fait, il s'en est pas fallu de peu que, historiquement, ça soit les Russes qui arrivent les premiers, enfin les Soviétiques en tout cas, qui arrivent les premiers sur la Lune, puisque dans la course à l'espace, ils étaient les premiers, avec Sputnik et Gagarin, ils avaient beaucoup d'avance sur les Américains au début des années 60. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Alors je voulais vous passer la bande-annonce, mais ça passe pas forcément en live, je vais vous passer juste là un petit peu de son pour illustrer en arrière, parce que je trouve que la bande-son est très sympa. Donc dans cette uchronie, on change l'angle qu'on connaît. L'Amérique a régulièrement un coup de retard sur l'URSS. Donc on est très loin de l'Amérique triomphante telle qu'on peut la connaître nous actuellement, hein, qui a une vocation un petit peu à donner le là de ce qui se passe dans le monde, à faire un petit peu la morale peut-être, entre guillemets, enfin voilà, sans forcément plus de jugement de valeur que ça, mais en tout cas c'est un peu ce qu'on vit. Et on est plutôt dans une Amérique qui se pose des questions sur ce qu'elle est. Et comme dans Battlestar Galactica ou dans Watchmen, que j'ai également présenté, le contexte imaginaire, il est surtout là pour parler du monde dans lequel on vit, nous, dans le monde réel, finalement. Et comme dans Watchmen, on a forcément à la tête du pays un autre président que celui qu'on a connu, et cette fois-ci, ce n'est pas... je sais plus comment il s'appelle.
Robert Redford.
C'est Robert Redford, voilà. Là, c'est Ted Kennedy qui succède à Nixon. Et on a donc forcément des choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on a pu connaître. Alors, qu'on connaisse ou pas la véritable histoire des États-Unis ou de la course à l'espace, c'est pas forcément important finalement. Ce qui est important, ce sont les personnages et ce qui leur arrive. Parce qu'on a beaucoup de parcours croisés, que ça soit au niveau des personnages principaux, les astronautes et les personnes de la NASA, ou les personnages, je mettrai entre guillemets, secondaires, qui en fait ne sont pas si secondaires que ça. Ce sont les familles de ces personnes de la NASA, la famille mexicaine qui a traversé la frontière et dont la fille est passionnée d'astronomie. On va la suivre aussi en pointillé tout au long de la série. Et en fait, tout le monde a quasiment son moment marquant dans la série, et c'est très très intéressant parce qu'on voit vraiment l'importance des interactions et des valeurs humaines avec quelque chose qu'on avait déjà dans Battlestar Galactica, c'est-à-dire la volonté de mettre en avant ce qu'on va appeler peut-être les minorités, c'est pas le bon terme, mais en tout cas les personnes qui n'ont pas forcément droit au chapitre souvent, ou qui sont reléguées au second plan, c'est-à-dire que là on a des vraies femmes fortes, on a des homosexuels aussi à des responsabilités. On a des minorités qui se retrouvent au premier plan, et ça se passe dans les années 60-70 aux États-Unis. Finalement, dans cette Amérique à la traîne, paradoxalement, l'ouverture d'esprit s'est faite d'une façon peut-être un petit peu forcée, c'est-à-dire que l'Amérique a été un peu chamboulée sur ses fondations, et les droits civiques, les droits globaux ont été un petit peu mis en avant que finalement ce qu'on a pu connaître dans la réalité. Et c'est un petit peu, des fois, par la force des choses, que l'Amérique doit avancer sur le sujet de la société, puisque elle est obligée de faire, à chaque fois, de rattraper la Russie, qui elle a des fois des coups d'avance ces sujets-là. Alors ça peut être paradoxal, encore une fois, c'est pas du tout ça se veut pas du tout forcément réaliste, mais comme c'est dit plusieurs fois dans la série, il y a des personnages qui disent the world is changing. Et en fait, on suit au fil de la série comment ce monde change, évolue et comment même les personnages évoluent au fur et à mesure de la série. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont promues à des postes de haute responsabilité, les droits des homosexuels qui sont votés. Forcément, ça fait grincer des dents de certains personnages partisans du statu quo hein, dans la série, et certains propos sont assez abjects. Hein. Je vous cache pas que justement les défenseurs du statu quo vont avoir des choses un petit peu du genre, mais ça vous pose pas de questions d'avoir. Vous avez vraiment confiance au fait que ça soit une femme qui soit votre chef? Vous pensez pas que tout va foirer? Enfin, c'est ce genre de choses où si vous êtes homosexuel, surtout le dites pas parce que ça va nous faire perdre la face aux Russes, etc. Enfin, vous voyez. C'est ce genre de propos qu'on peut avoir, je les ai pas notés.
Par contre, Nico, tu peux me dire en quoi tu trouves ces propos abjects?
j'attendais, tu vois, j'essayais justement. Et justement, quand je dis que finalement c'est abject, c'est tout ce que j'allais dire. Finalement, c'est représentatif de ce qui a pu être dit à une époque, ou même de ce qui se dit encore. Hein. On va pas se leurrer, c'est loin d'être derrière nous, tout ce genre de propos. Et ce sont des thèmes qu'on retrouve souvent dans les créations de Moore, hein, de Ronald D. Moore, qui était à la base un scénariste sur Star Trek. Il y a une série qui a voulu justement être un peu pionnière sur ce type d'approche. Dans Battlestar Galactica, on a aussi ce changement, notamment avec un personnage principal qui est passé d'un homme à une femme entre la série de 78 et celle de 2000, etc. Donc on sent qu'il a envie de faire des choses, faire avancer la société dans ce sens-là. Donc c'est plutôt intéressant. Et quand je disais que finalement l'histoire avec un grand H telle qu'on la connaît n'était pas forcément importante, c'est-à-dire que on a forcément la guerre froide en trame de fond. Mais c'est loin d'être le ressort narratif principal, un peu facile auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit, on inverse les rôles et puis on voit comment ça marche. Non, finalement, c'est quelque chose. La menace est là pour les Américains, mais finalement, c'est pas du tout ce qui les motive dans leurs actions au quotidien. Et justement, ça s'entrechoque régulièrement avec les intentions politiques qui, elles, sont expressément exprimées, justement, avec les présidents successifs et leurs représentants qui veulent en faire des marqueurs emblématiques. Ils veulent que tous les personnages de la NASA soient des marqueurs de rapport de force sans tenir compte finalement des possibilités techniques et réelles qui peuvent exister en disant nous on s'en fout, l'important c'est l'image que ça renvoie. Ça fait un petit peu penser à un président pas si lointain qu'on a pu connaître par le passé. Voilà. On s'en fout un peu de la science, l'important c'est l'image. Et voilà. Je pense que cette série-là, elle est sortie aussi à ce moment-là avec des messages pour la réalité puisqu'elle est à date de 2019. Hein. Et d'ailleurs, pour vous dire que la menace n'est pas très prégnante, c'est qu'on voit très rarement des représentants soviétiques dans la série, quoi. On est vraiment autour des personnages qu'on retrouve. On ressent pas forcément l'opposition, les méchants contre les gentils, très caricatural, très manichéenne. Quoi qu'on pense des deux idéologies, hein, c'est pas du tout par rapport à ça. C'est de se dire, voilà, on n'est pas du tout dans ce rapport de force et dans ce jugement de valeur et dans ce côté donneur de leçons. Et donc, comme tout un chacun, c'est leur vie, leur drame, leurs amours et leurs angoisses qu'on suit. Les personnages, en fait, sont incarnés. C'est pas des stéréotypes qui sont là pour véhiculer des messages. Et les personnages sont vraiment très importants. Notamment, on voit les problèmes quand ils sont sur la Lune. Ce sont des sujets assez terre à terre qui les occupent. Comment s'occuper? Comment faire en cas de blessure? Comment faire face à l'angoisse du grand vide et l'esprit qui se détraque, qu'on perd un peu la boule, etc. Quand on est loin de ses proches. C'est vraiment des choses très, 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 très bien jouées, je trouve. Enfin, très bien écrites surtout parce que l'écriture de la série est au top. Le scénario, comme les personnages sont fouillés, sont crédibles. Du coup, on se prend d'affection pour les protagonistes, et on est pris par les enjeux ou par les questionnements de tout un chacun, leurs choix moraux. Et la série est très intéressante parce qu'on arrive à suivre plusieurs histoires sans se perdre parce que ça reboucle très régulièrement, etc. Et moi, je trouvais ça vraiment passionnant. Comment dire? Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une uchronie, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Quand c'est un récit historique, on sait qu'un tel est mort, tu parlais de Jésus, bon, on sait un petit peu sa fin, comment ça s'est passé, etc. Là, on ne sait pas puisqu'on part d'un point de départ et ça part sur un tout autre chemin. Donc, finalement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des surprises, il y a des personnages morts dans notre réalité qui ne le sont pas dans la série et inversement. Donc, ça surprend également. Là, c'était pour l'histoire, le fond, la forme, je vais en dire deux mots, c'est-à-dire que la réalisation, je la trouve super belle. C'est très réaliste. Alors réaliste, ça veut pas dire crédible, mais en tout cas c'est super beau, un peu comme on pouvait voir dans Battlestar Galactica, dans le sens où tout est là pour être fonctionnel et pas forcément beau. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est potentiellement réaliste. Voilà, les vaisseaux sont abîmés, les gens sont pas toujours bien coiffés, machin. Alors souvent quand même, mais il y a quand même cette espèce de volonté de rendre du réel. Les scènes sur la Lune sont assez magnifiques. La reconstitution des années 70 est vraiment top. Voilà, que ça soit les maisons, les voitures, l'état d'esprit, les musiques. Tout ça, c'est vraiment top. On voit l'évolution de la salle de la NASA au fur et à mesure des lancements qui se modernisent. C'est vraiment des petites, par petites touches, en fait. Si on est attentif aux détails, on voit plein de choses. Il y a un mélange d'images tournées avec des images d'archives, avec des propos qui sont déformés, avec, de temps en temps, c'est des photos montages, de temps en temps, ce sont des images d'archives, etc. Forcément, Ted Kennedy en président des États-Unis, oui, ça n'a pas existé, donc c'est difficile de reconstituer à partir d'images d'archives. Donc, il mélange le tout pour que ça soit crédible. Et là, il y a quelques effets numériques un petit peu ratés, par moment, paradoxalement. On se dit, tiens, là, ça choque. Donc, du coup, c'est que le reste est tellement parfait, de mon point de vue, que quand il y a un petit truc un petit peu en dessous, ça saute aux yeux. En tout cas, ça m'est arrivé 2-3 fois. Mais c'était vraiment, vraiment une super série. Et la bande originale est vraiment, vraiment cool, je trouve, entre les créations, je dirais, spécifiques et les musiques, je dirais, intradiégétiques qui sont utilisées pour m'en remettre dans l'ambiance de l'époque des années 70. Je finirai par une approche sur les acteurs. Alors, les acteurs, ils sont top aussi. Il y a très peu d'acteurs connus. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, enfin, de mon point de vue, en tout cas, moi, je les connaissais pas. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour Sarah Jones, l'actrice qui joue Tracy Stevens, qui a à la fois un charisme qui marche bien et puis qui est un personnage aussi que je trouve très intéressant dans la série. Mais je pourrais finalement quasiment tous les citer parce que je crois que j'en vois aucun qui dénote vraiment où on se dit peut-être les enfants à la rigueur que je trouve un petit peu en deçà, mais bon, c'est vraiment s'il fallait chipoter. Alors comme je disais, on retrouve quelques têtes connues, en tout cas que moi j'ai reconnues, notamment Chantelle Van Santen, pardon, qui joue également la femme de Butcher dans The Boys, qui était un coup de cœur dont j'ai parlé dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu The Boys, mais en tout cas c'est la femme de Butcher, le protagoniste principal. Et dans cette série, elle joue la femme de Ed Baldwin, l'un des principaux astronautes, qui est interprété par un acteur, je voulais le noter quand même, un acteur qui a un nom prédestiné pour Podren, un événement organisé en Bretagne, puis qui s'appelle Joel Quinyaman. c'est quand même assez dingue.
C'est grossier, Nico, comme
ça. C'est mon interprétation, c'est parce que j'ai un accent un peu pourri. En fait, il s'appelle Joel Quinyaman. Voilà, mais c'est quand même... ça m'a fait marrer. C'est le premier nom qui apparaît à chaque fois depuis une semaine. Je vois Joel Quinyaman et bon, voilà, je ne peux pas m'empêcher d'entendre Quinyaman dans ma petite tête. Mais pour revenir à ce que je disais juste avant, là, je l'ai présenté, Chantelle Van Santen, comme la femme de... parce que la femme de Butcher est là la femme de Ed Baldwin, mais dans la série, son personnage évolue, et finalement, bien qu'elle soit plutôt hostile au changement de la place des femmes. Au début, c'est quelqu'un qui est très, selon des principes, selon des valeurs, la femme, elle est là pour tenir le foyer, etc. Dans la société, il faut surtout pas déborder. Mais en fait, on suit son parcours, et sans trop en dévoiler, elle évolue. Et c'est fait par petites touches, c'est fait parce que de temps en temps, par la force des choses, malheureusement, elle est obligée d'évoluer, mais aussi par rapport aux rencontres qu'elle peut faire dans la série, des choses qui peuvent lui donner envie de se poser des questions sur son rôle, sur sa place, etc. Et puis, on a un autre acteur que j'ai reconnu tout de suite. Au début, je savais pas qui c'était. C'est Chris Bauer, qui joue Dick Slayton, l'instructeur et le chef des équipes de vol de la NASA, qui était le shérif torturé et alcoolique Andy Belfleur dans True Blood. Je ne sais pas si vous avez regardé True Blood, mais il joue souvent un rôle de flic, en fait. Et là, il joue un rôle d'inspecteur, donc quelqu'un qui est très... un visage un peu fermé, etc. Mais c'était intéressant de le retrouver. Mm-hmm. Donc là, c'était pour revenir sur les acteurs, mais j'ai fait un focus sur trois d'entre eux, mais vraiment, ils sont tous vraiment très, très bons, de mon point de vue. Je ne sais pas si tout le monde a vu la série. Donc, c'est vraiment une série que je recommande, même si, encore une fois, je n'ai vu qu'une saison pour l'instant. Peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer. Je sais que la deuxième saison a l'air de partir un petit peu plus sur l'affrontement Amérique-États-Unis. On verra comment ça se... Amérique-États-Unis, URSS-États-Unis.
Mais, la guerre de sécession, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ça, mais en tout cas, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu. Alors, je ne sais pas si ça vous donnait envie de suivre, mais...
Ah si, carrément, oui.
Carrément.
Tu as dit combien d'épisodes pour une saison?
10.
10, hein. Mm-hmm.
10 par saison, c'est sur Apple TV+. Apple TV+, vous pouvez l'avoir pendant 7 jours gratuits, je crois, si vous voulez le tester. Voilà, c'est pour pouvoir l'écouter.
C'est des épisodes d'une heure, quoi, à peu près.
C'est ça, c'est plutôt 1h, 1h05. Il y en a quelques-uns qui sont un peu moins, et le dernier qui fait 1h16. Voilà.
D'accord.
C'est comme ça l'idée. Voilà ce que je pouvais vous dire. En espérant que ça intéresse aussi les gens dans le
oui,
chat.
Est-ce que je vois,
j'ai pas du tout le temps de.
Non, alors ce que je vois, pas du tout, en fait.
Ils ont même dit, ils disent même, tiens, Jean-Lien, d'ailleurs, non, vraiment, c'est insupportable, sortez-le. Non, tu as Draven, voilà, c'est crédible, voilà, justement très intéressant, car crédible par rapport au rideau de fer de l'époque, où on découvre que ce que font les soviétiques au dernier moment, notamment.
Oui, parce que je vais pas plus reprendre parce qu'on est le
côté.
Timing,
ouais.
Mais l'idée, c'est effectivement de dire les Russes sont aussi à l'aveugle. Les Américains sont à l'aveugle de temps en temps parce que ils découvrent les choses une fois qu'elles sont faites. Et effectivement, ils sont tout le temps en train de parier sur l'avenir en disant est-ce qu'on va être devant, est-ce qu'on va être derrière. Il y a beaucoup de paris. Ils savent pas toujours à quel point en sont les Russes. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire sur For All Mankind, et encore merci Draven d'avoir mis en avant cette série parce que j'ai passé un très bon moment.
J'en profite pour saluer le Doc Zaius. Oui, oui, tout à fait. Le t-shirt Gojira, c'était pour aussi rendre hommage au bruit, en fait, en même temps. Hein. C'est voilà.
Ok, eh ben, je vais laisser la parole à Marius.
Je sais
pas si on aura le temps de faire nos coups de cœur, en fait. Hein, mais bon, c'est pas grave.
Moi, ça va être un peu bavard,
c'est pas très grave. Eh ben, Marius, je te lance ton jingle. Et puis, tu vas nous dire de quoi tu veux parler.
As-tu vu les belles canouilles? As-tu vu les belles canouilles? Les belles quenouilles dans le marécage! As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu?
Bordel de merde!
Il m'avait manqué cette jingle.
On a toujours pas compris quelle était la thématique de cette rubrique, mais c'est pas.
C'est un peu le principe.
C'est ce qui en fait tout le sel.
Voilà, c'est pour ça. C'est en fait, il me ressemble bien ce jingle parce qu'en fait, ça a rien à voir avec vous. Moi, je vais pas présenter de.
Ça a rien à voir avec
Galactica,
en fait.
De machin, de rien. Non, moi, je voudrais vous parler d'un manque. Et en fait, voilà, c'est. Enfin, je suis encore parti à la déroute. Je voudrais vous parler d'un manque. Ce qui est bizarre chez moi, c'est que depuis un an, en fait, je suis certainement la personne à qui rien n'a manqué. En fait, j'étais super content. À chaque reconfinement, c'était une explosion de joie à la maison. J'avais une vie de saltimbanque, donc de photographe, de père, de mari, de travailleur. Car oui, je suis obligé de travailler, car si j'attendais un salaire d'entrepode, en fait, je serais sous les ponts. Mais voilà, en fait. Moi, je suis un mec qui courait partout et comme je l'ai déjà dit à un micro d'un podcast que je ne citerai pas, l'Entrepode, je disais que oui, tout s'est arrêté pour moi, mais aussi pour nous, pour le monde entier. Mais en fait, pour moi, ça a été salvateur. J'avais besoin de cet arrêt, d'arrêter de courir, de me poser, d'arrêter de dire oui à tout, parce que ceux qui me connaissent également savent que je suis un grand passionné de tout et n'importe quoi.
Oui.
Une feuille qui tombe, un rayon, une table.
Il dit oui à tout parce qu'il va chercher ma table demain.
J'ai toujours aimé aller chercher une table, c'est un truc de dingue pour moi. Demain, je peux vous dire que c'est le jour
passion
de fête.
Marius.
C'est un jour de fête. Et donc, ça fait un an que je me pose aucune question, mais quand je dis aucune question, ça fait un an que je suis hyper zen. Bon,
ça fait 47 ans que tu te poses aucune question.
et en fait, tout va bien. Et d'un seul coup, tu te demandes comment que ça arrive, mais là, d'un coup comme ça, je me souviens exactement où j'étais. Donc, j'étais sur le marché de Sotteville-lès-Rouen, à filer un coup de main à mon papa qui vend des œufs de plein air, du numéro 1, du gros calibre. Donc, 2 euros les 6, 3,50 la douzaine. Hein. Vous demandez JP les œufs frais sur le marché de Sotteville. Et il est là-bas deux fois la semaine. Le jeudi, il est à côté
les
du boucher. il est à côté du boucher Élie. Et le dimanche, il est derrière Élie. Donc, faut faire attention. Mais normalement, en fait, à la fin de l'année, il doit garder la place du jeudi, parce qu'en fait, la place du jeudi, il est mieux, parce qu'il est à un angle. Et du coup, il va toucher deux angles, en fait. Donc, il va carrément être mieux. Et puis là, pour le coup, normalement, si vous avez bien calculé, on est dimanche. Donc, j'aurais dû être avec lui. Mais là, c'est Nanette qui est partie, parce qu'en fait, il fallait que je sois au calme, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la maison. Il y en a qui passent la tondeuse et tout ça. Donc, du coup, elle est partie. Puis là, elle est partie donner à mon père. Je sais très bien qu'il y a des clients qui vont dire « Bah alors, il n'est pas là, votre fils JP, pour vendre des œufs. » Alors, Nanette, elle est toute fière. « Bah non, il est en train de faire une émission, un podcast. » Puis là, les gens, parce qu'ils sont un petit peu... Ils sont pas tout jeunes, quoi. Ils vont dire « Bah c'est quoi un podcast ?» Puis elle va dire « Bah alors, un podcast ?» Mais alors là, on s'embarque dans une explication à la fin. Donc, j'en étais où, moi? Donc, c'est que j'en étais... Voilà. Donc... Du coup, et là, tu sais pas pourquoi, je reprends ma chronique, comme ça, c'est reparti, j'ai ressenti un manque de dingue. Il était sur le marché 11h32, mais pas un manque de restaurant, pas un manque de voyage, non, un manque complètement bizarre. Mais en fait, je sais pas si ça vaut la peine que j'en parle ici.
Ok,
ça marche. Alors du coup, ce qui manque, c'est bizarre, mais c'est l'avant-concert. Alors c'est un truc de dingue. Le moment où la salle se remplit, où il y a une ambiance qui plane, le calme avant la tempête, les murmures des gens, cette lumière légèrement feutrée, la scène légèrement éclairée, et en fait où tout le monde discute entre eux, en fait, les gens qui sont assis, qui discutent tout doucement, et ce moment où la lumière tombe, où là on a une clameur, voilà, il y a un truc qui se passe en fait, il y a une clameur qui se fait entendre, c'est vraiment bizarre. Et je suis sincère pour le coup, j'ai raconté plein de conneries avant, mais là c'est vrai. Et c'est pas le fait de d'être sur la scène et de jouer, parce que vous savez très bien, je suis musicien. C'est pas le fait de prendre des photos, vous savez, je suis photographe. Non, c'est cet avant-concert quand on est dans la salle, quand il y a cette ambiance, et c'est vraiment cette ambiance qui manque, ce truc magique qui est là, l'instant d'avant. Et le pire, c'est qu'en fait, quand t'as une vie normale, tu t'en rends pas compte, tu vas à un concert, tu passes un moment, ça s'arrête, la musique démarre, tu passes un pur moment avec plein de monde, tu cries, t'applaudis ensemble, et ouais, ça se finit, tu repars, tu te poses même pas ce genre de questions, mais ben, moi oui, je me les pose ces questions-là, et c'est vraiment ce manque, mais c'est énorme. Et je pense que mon futur concert, c'est ce moment-là que je vais savourer au maximum, cet avant-concert. J'ai ça aussi sur le Hellfest, en fait. C'est pareil, ce qui me manque, oui, c'est tout con, mais c'est d'aller de scène en scène. C'est-à-dire de partir d'une scène, d'aller à une autre, et d'un pareil, seul coup, à 2, 3, 4, 500 mètres, t'as du gros son qui tombe, et là, d'un seul coup, t'entends gronder à 3, 4, 500 mètres, 10 000, 20 000, 30 000 personnes en même temps qui vont soulever un truc, quoi. Et toi, en fait, t'es simplement en train de te balader, enfin, d'aller d'une scène à une autre. Et c'est vraiment, voilà, je voulais vous faire part de ça, c'était rapide, c'était mignon, c'était sympa.
Ah oui,
mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et j'en parlais avec Starlet il n'y a pas longtemps. Moi, il y a un truc qui fait un peu écho à ce que tu dis, hein, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est qui marche tout le temps, c'est les premiers coups de grosses caisses sonorisées. À chaque fois que je suis sur une séquence, tu sens le boum, boum, boum. Et ça, à chaque fois, en balance, hein.
En balance,
dès qu'il y a la balance,
part, ouais,
où tu sens que ça commence à taper, et puis d'un seul coup, t'as la sono qui monte, et puis tu sens que le sondier, il est en train de faire ressortir les différents trucs, et que t'as les premiers coups de grosses caisses. À chaque fois, je sais pas pourquoi, ça fait 20, 30 ans que je fais des concerts. Et à chaque fois, ces premiers coups de caisse, ça te dit, là, ça y est, là, on est dedans.
Ça
et d'un seul coup,
ça
me raccroche au, je sais pas pourquoi, voilà. Hein, ce sentiment-là, il est, voilà. Mais je sais pas si vous avez la même ressenti, Ludo et Arnaud.
Non, mais j'aime beaucoup l'anecdote de Marius, en fait. Carrément, quand tu parlais de l'avant-scène, c'est très, très, je comprends complètement ce que tu veux dire. Vraiment, c'est vrai que c'est un moment d'anticipation, d'excitation. Et c'est vrai que, avec le confinement, en ce moment, c'est triste, quoi. En fait, on est confiné dans le jus. Il se passe pas ça. Il y a pas cette excitation, ouais, ça, actuellement, je trouve. C'est vraiment ce qui manque. Et tu le traduis super bien, Marius. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. C'est c'est très, très fort ce que tu dis.
C'est super bien exprimé. Même si j'ai raté les 20 dernières secondes, je te promets.
Ah ouais,
il a fallu que je m'absente.
Mais caca.
C'est
rapide pour un caca. J'étais carrément en phase, plus sérieusement, vraiment sur le côté l'avant-concert. Voilà, ce qui va se passer à ce moment-là, espèce de petite montée d'adrénaline.
Ce truc qui attend, qui surgit. Donc vous aussi, hein, qui nous écoutez dans le poste.
Les gens disent la même chose, hein.
Ah bon? Ils disent où ça?
Il y a plein de gens qui sont dans le, mais voilà, les.
Ah putain, c'est
le seul qui colle à cause des bières renversées. Ouais.
Et aussi, j'ai Claude qui dit j'adore le cafouillis de Marius, mais.
Non, c'était bon là-dedans.
Ce qui manque dans le
Hellfest,
c'est tellement vrai, ça.
Ouais. Non, on peut dire la même chose finalement, ce que je disais en introduction, c'est vis-à-vis de Podren aussi. Là, c'est un palliatif.
Ouais,
mais c'est vrai que là, c'est super sympa de vous voir, etc. Mais là, on échange toutes ces choses, même en live avec le chat, etc. Mais c'est pas pareil que, je me rappelle le premier Podren où on avait commencé, il y avait quelques gens qui étaient un peu curieux, se demandaient un peu ce que c'était que l'entrepode. Et puis après, aller discuter tout de suite après l'émission avec les gens sur leur ressenti. C'est complètement différent. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut interagir en direct, mais cette proximité, ce côté très échange direct, partage, c'est quand même quelque chose.
C'est vrai que c'est ce qui nous reste de ça, les échanges avec avec Thomas Crayon, avec
avec Zaius, avec Fred, voilà, avec Draven, avec, enfin, on va pas faire la, on va en oublier sinon, donc désolé, mais toutes ces personnes là qu'on a rencontrées, puis forcément l'organisation de Podren et et puis la
confiture
de Ludo lors du quiz, voilà, c'est ça, la honte qu'on s'est pris, voilà. non mais vraiment ouais, Marius, complètement d'accord avec ce que
donc voilà
ce que tu viens de dire,
carrément en phase.
Alors on croise les doigts pour que ça
soit bientôt
un mauvais souvenir.
Et oui donc si vous voulez nous faire part également de vos manques, 36-15 entre pods, Marius vous à votre écoute. on saura prendre le temps pour vous aider dans cette phase assez compliquée.
Sinon là, entrepod.fr, vous l'avez juste derrière, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux.
Il a arrêté le 36-15.
Magnifique.
Le 36-15, on l'a arrêté cette semaine, toi, c'est pas de bol.
Okay.
C'est pas de bol. Et ben, merci beaucoup, Marius. Merci. Alors bon,
il y a Didouille qui arrive. Il y a un bras de Didouille là.
Ouais.
Il y a un bras de Didouille et un lapin.
Il a fabriqué ses petits lapins.
Voilà, fait ses petits lapins de Pâques.
Encore, c'est pas loin des petites hermines de Podren.
C'est pour faire le ménage à la maison, elle dit.
C'est des petits lapins de ménage.
C'est un coup à se prendre un procès, ça, en prenant ce genre d'accent-là maintenant aujourd'hui. Hein, c'est dangereux, faut faire gaffe.
Eh ben attends, en parlant de trucs dangereux et qu'il faut faire gaffe, je crois que la transition est toute trouvée.
Alors, faut expliquer à ceux qui connaissent pas, hein, que JR, c'est, je vais lui céder ma place et que c'est un gars super méchant, hein, et que pour rien au monde, je ne cautionne ses propos.
Les gens qui sont dans la chatroom, doivent le connaître. Dans la chatroom, pareil. Et ben, vous allez voir, JR, c'est l'alter ego maléfique d'Arnaud. Donc, voilà. Il est là pour nous apporter son point de vue sur la vie, sur plein de choses. Et ben, c'est à lui.
Mais pourquoi est-il si méchant? Tcha, 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 tcha! Hey, ho, 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 ho,
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho,
bonjour, hein. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jean-Robert Frégin, hein. Enchanté. Mais vous pouvez m'appeler JR, hein. Ouais. Bonjour à la sympathique équipe de l'Entrepod, un certain amputé d'une bonne moitié et à distance. Bonjour à nos amis de Podren, à nos poditeurs et aux internautes qui nous regardent sur Twitch. Oh, j'ai l'impression d'être le Samuel Etienne du pauvre. Alors l'Entrepod, on n'est pas au complet? Bon, en même temps, à part Monsieur Marius, vous avez fait dans la qualité, hein, il y a que les meilleurs. un petit mot pour les absents tout de même, hein. Mme Christelle, la petite nouvelle, elle a pas voulu venir, trop occupée à chercher les œufs de notre Monsieur Freddy National pour lui fêter dignement son anniversaire. Au passage, une petite pensée pour notre Freddy, hein, en avril, ne découvre pas d'un fil qu'on lui avait toujours dit. Et voilà qu'on apprend cette semaine la mort de Gérard Filippelli, un fil, ancien membre des Charlots dont il est un fan absolu. Christophe non plus n'a pas pu venir, hein, on le disait. C'est que, comme chaque année à cette époque, il est recruté par les EHPAD pour se cacher dans leur jardin. Ouais. Avec son crâne tout dégarni, ça fait un gros œuf tout lisse que les pensionnaires épargnés par la Covid auront plaisir à trouver et même à caresser, histoire de retrouver au passage un peu de chaleur humaine. Quant à Mme Didouille, hein, qu'on a entreaperçue là, elle se réjouissait de participer, hein, mais c'est à la suite des tests techniques de cette semaine dont j'aurai l'occasion de reparler, qu'elle a été interdite d'émission. À cause de sa voix surpuissante, elle a endommagé 2 tables de mixage. Oh, les organisateurs lui ont interdit de remettre les pieds à Podren. Hein. Ah, et les habitués de Podren, ils se demandent forcément où est passée Mme Starlet. Ben, Mme Starlet, elle a démissionné de l'Entrepod en 2020. Oui, ah, elle serait dans les parages, visiblement. Elle a démissionné de l'Entrepod en 2020. Ben, on le sait peu, hein. Mais c'est Podren, hein, qui l'a poussée à cette extrémité. Elle avait clairement annoncé la couleur. Hein. Si on refait Podren, c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Hein. Je quitterai l'Entrepod. Ah, voilà, c'est fait. Bah, c'est vrai que, avec le rythme ralenti imposé par la Covid cette année, on a l'impression qu'un épisode sur deux est un épisode à Podren. Ça devient lassant. On a l'impression d'être dans un jour sans fin. Hein. Une épreuve usante. C'est très, très long. L'impression de jamais en sortir. C'est comment ça, la Covid? Bah non, moi, je parle de Podren. Il est interminable ce week-end, et dans interminable, enfin, en fait, faut pas se le cacher, personne n'avait envie de venir à Podren, hein, surtout pas en distanciel, parce qu'en présentiel, au moins, il y a à manger, hein. Mais il y a que Monsieur Nico qui était vraiment partant dans le fond, hein.
Et faut dire que son petit plaisir de confiner, monsieur Nico, c'est de faire Podren en slibard, avec un deuxième écran branché sur YouPorn, tout en sachant observer. Monsieur Nico, on peut voir vos mains, s'il vous plaît. Hein, merci. Alors, monsieur Nico, faute de volontaire, il a fini par imposer un tirage au sort. Réquisition, comme les personnels soignants, les gars. Hein. Et dimanche soir, quand on sera sorti de cette galère à 20h, je me mets sur mon balcon et je vous applaudis. Et voilà comment on se retrouve avec un entrepôt forcément un peu bancal. Ouais. Au fait, les organisateurs, vous nous entendez là? Je réalise qu'on avait oublié de vous prévenir lors des tests. Monsieur Marius, il capte mal. Non, c'est pas un problème de connexion, non, il capte mal, même en vrai. Hein. Ouais. Ouais. Monsieur Marius, c'est l'incarnation à lui seul de l'économie du podcast amateur. Un micro à 20 balles, hein, conseillé par l'équipe de Podren. Et une intro à 2 balles.
Ouais.
Oh, monsieur Nico, il dit souvent que Walter Proof, il a Pompidou, son chien. Et que lui, eh ben, il a Marius. Ouais. Ouais, regardez-moi son poil luisant et ses petits yeux brillants. Ouais. On a envie de prendre sa petite gueule de Matthew McConaughey acheté sur Wish entre nos mains. Hein, il dit frotter le cuir chevelu. Ouais, je parle de Walter Proof parce qu'il intervient cet après-midi pour son WAPEX. Enfin, une spéciale son mystère, une rubrique clé hein, du WAPEX. Ouais. Alors, le WAPEX, c'est une émission d'une heure avec 45 minutes de découverte sonore et 15 minutes de G-code qui laisse un message sur le répondeur de Walter pour expliquer ce que n'est pas le son mystère qu'elle n'a pas trouvé. Ouais. G-code, vous la connaissez pas hein? C'est ce qu'on appelle techniquement une Bernard Lhermitte de podcast, un genre de tic podcastique. Ouais. Alors, au fait, Mme G-Code, j'espère que vous êtes là sur Twitch. Hein. Ben, en fait, je dis ça, je l'avais écrit, mais je sais que vous êtes là. Hein. Vous souvenez qu'une fois que la Covid disparue, vous vous êtes engagé à accueillir dans votre boutique toute rénovée un intermittent de l'humour pour son spectacle Marketing du Rire, là, dont je mets le lien dans le chat de Twitch pour les 4 autres auditeurs qui nous suivent. Ben, quoi, du placement de produit? Ben, pas du tout, c'est... C'est de l'information. Tiens, c'est parti. Hop. Vous irez le voir tout à l'heure. Hein. Et bon, reste qu'à si peu. Et d'autant plus en comptant Monsieur Marius, on avait une angoisse. Comment tenir 1h30? Ah, je dois avouer que jusqu'à hier, je séchais un peu sur ma chronique. En même temps, moi, si je séchais. Monsieur Lulu, alors, lui, il était complètement lyophilisé, hein. Encore hier soir, je crois. Mais je savais qu'il fallait que je me réimprègne de Podren pour que l'inspiration revienne. Alors, de manière un peu masochiste, mais parce que le devoir l'imposait, je me suis forcé à écouter la journée d'hier. Alors, les organisateurs nous avaient prévenus, hein. Les journées d'un week-end de Podren, c'est comme les crêpes bretonnes. La première est toujours ratée. Ouais. Bon, ça s'est confirmé. Hein. Comme je le disais lors du précédent épisode, je craignais que l'anthropode ne soit en fait l'invité d'un podcast de cons. Bah, comme un guide d'idées de cons, mais pour les podcasts. Sauf que là, c'est pas le mercredi soir, mais le dimanche midi. Ouais. C'est le principe des faire valoir. Hein. Surtout quand t'as vu qu'au programme, il y a l'avocate de victime du Bataclan, de Nice et de la famille de Samuel Paty. Là, je me suis dit, Podren, ils sont sur une mauvaise pente. Ils filent un mauvais coton. Là, qui se mettent à faire dans le sérieux. Ah, j'ai vraiment eu le pressentiment qu'on allait nous demander de présenter notre tour Eiffel en boîte d'allumettes. Hein. Et puis finalement, bah, mis à part cette émission à la thématique tout sauf légère, hein, la terreur, eh bien, l'écoute de la journée d'hier m'a plutôt détendu. Alors, on est peut-être invité à un podcast de cons, mais visiblement, on n'est pas les seuls convives à table. Ouais. Si ça m'a permis d'humer l'ambiance en termes de médiocrité des propos, il me manquait un déclencheur pour me replonger totalement dans l'ambiance et alimenter ma chronique. Et le déclic, ben je l'ai eu quand j'ai croisé les 2 ados confinés de Monsieur Arnaud, ouais, à l'hygiène encore incertaine, qui trempent dans leur jus devant des jeux vidéo en écoutant du rap à longueur de journée, enfermés dans la même pièce. Ah, c'est en les reniflant que j'ai eu une réminiscence de la salle de Podren en 2018 et de ces geeks embinousés à l'odeur âcre. Et là, l'inspiration est venue. Oh, heureusement qu'elle est venue, hein, parce que là, bah, nous y sommes. Hein. En plus, on est filmés. Hein. Il faut sourire et donner l'impression de s'amuser. Quel week-end pourri, tiens, vivement la reprise du boulot. Pff. Non, quand j'y pense, pour fêter la 60e et la 60e de l'Anthropode, j'imaginais autre chose que derrière un écran dans la chambre du fils de Monsieur Arnaud. Hein, je me retrouve à fêter ça en ligne avec 3 autres geeks, là, une sorte de chat roulette rennais. Ouais, la déprime. De quoi vous filer un cafard pas possible. Ah d'ailleurs, Podren, tiens, plutôt que l'hermine bretonne, vous devriez pas plutôt opter pour un cafard comme symbole ? Non, ça sera plus adapté à mon avis. Hein. Mais admettons, hein, que vous souhaitiez absolument affirmer votre enracinement breton. Mais alors, faudra aller au bout de votre démarche. Ah tiens, la devise de votre chère Bretagne, Kentuck Mervel Eget Bezan Saotret. Oh, pardon pour mon accent un peu approximatif. Hein. On peut la traduire, même si mes vieux souvenirs de breton deuxième langue laissent à désirer, plutôt la mort que la souillure. Faudrait être en phase avec votre devise, les gars, et penser à l'euthanasie de votre festival moribond. Hein, parce que, comme j'ai expliqué, je l'ai écouté votre festival hier, les gars, et côté souillure, il y avait du niveau. Hein. Ah, bah, je peux vous assurer que de vrais bretons seraient déjà donné la mort. Hein. Ou alors, vous n'écoutez pas votre propre festival, ce qui me semble dans l'absolu le seul début d'explication réellement valable à la venue pour la troisième fois de l'anthropode. Ah, mais faut que je garde mon calme. Hein. Monsieur Nico, il m'a appelé hier sur un ton assez menaçant. Hein. Attention, JR, on met de l'huile dans les rouages. Hein, faut pas cracher dans la soupe non plus. Non, faut pas cracher dans la soupe. Ils sont cool de nous accueillir à Podren, alors mollo. Ah, on ne me musellera pas, non mais cracher dans la soupe. Mais si Podren est une soupe, croyez-moi, c'est pas un petit potage maison avec des navets du jardin et des poireaux de la map du coin, saupoudrés de persil fraîchement coupé et parsemé de benne-genièvre. Hein, non, tu parles, si Podren était une soupe, ce serait plutôt une grosse conserve de bisque de homard liébig qu'on a ouverte 3 semaines plus tôt, qu'on a oublié au frigo et qu'on réchauffe au micro-ondes. En se régalant à l'avance à l'idée de déguster le petit dépôt rosé qui s'est formé en surface, hein, qui se situe entre la croûte ramollie et la peau de lait trop cuit. Ouais. Est-ce que c'est la soupe Podren? Ouais. Alors cette soupe, monsieur Nico, croyez-moi, quelque chose me dit que si je crache dedans, elle pourrait même être meilleure. Ouais. Ouais, vous n'aurez pas ma liberté de penser comme le disait le philosophe. Ah, Podren. Comme nous expliquait tout à l'heure monsieur Marius, le meilleur moment d'un concert, c'est certainement l'avant-concert, hein. L'attente, le petit verre de bière. Et il en sait quelque chose avec son expérience de Kenkyu, le groupe dont il était le batteur. Le meilleur moment d'un concert de Kenkyu, c'était clairement avant le concert, hein, quand les spectateurs avaient encore l'espoir qu'il soit annulé.
Ouais. Quel niveau de salaire.
Les participants à Podren, ils ont évité le pire l'an dernier, hein. Un concert live de Kenkyu. Merci la Covid. Hein.
C'est vrai.
Et la bonne nouvelle, c'est que la maladie a heureusement été éradiquée cette année. Hein. Mais non, pas la Covid. Kenkyu. Podren 2022 pourra se tenir en toute sécurité en présentiel, sans risque d'apparition de cette dangereuse affection, symptomatique d'une perte sévère de l'audition et ou du bon goût. Ah, ouais, le seul geste barrière connu était le port du casque. Non, pas du masque, du casque anti-bruit. Ouais. Heureusement, Kenkyu s'est dissous un beau jour de 2021 où ses membres se sont enfin décidés à écouter leur propre album. mieux que la secte du Temple solaire, un vrai suicide collectif. Ouais. Où voulais-je en venir? Encore une chronique de Monsieur Marius. Bah oui, Podren, c'est comme un concert pour Monsieur Marius justement. Le meilleur moment, c'est encore l'avant Podren. Bah oui, notamment quand on se retrouve sur le serveur Mumble. Pour tout préparer en amont, dans la semaine qui précède, en vue du jour J. Ah, on peut prendre rendez-vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Hein. Bon, les gars sont visiblement chômeurs ou intermittents. Bah, de toute façon, tout ça, c'est bonnet blanc. Hein, bon. Bah, ils sont là à boire des binous en ligne, pronts à dézinguer quiconque ose se pointer dans leur salon gribouillis, hein, sans être ingénieur du son. Ah oui, alors l'équipe de l'Anthropode est arrivée à 20h, heure du rendez-vous, plutôt dans un bon esprit, genre préparation de festival sympatoche. En souriant, les gars de l'Anthropode ont essayé d'entamer un dialogue sympathique. Mais l'accueil était passablement froid. Hein. Bah déjà, Monsieur Nico était en retard, ce qui avait passablement énervé Azertov, qui craignait de rater son rendez-vous quotidien avec Plus belle la vie. Et puis, Monsieur Lulu, qui avait des problèmes de micro, là. Il s'est fait passer un savon entre quatre yeux dans un petit salon privé par un des gars. Et puis surtout, c'est là que Monsieur Marius, toujours aussi maladroit, il a appelé Randall Gandalf. Ah oui,
c'est vrai.
Le faisant rentrer dans une colère noire. Moi, c'est Randall Flag. Mais le fléau, le vrai fléau, c'est toi. Et t'es tout sauf un king, s'est-il soudain enflammé. Ouais. Et c'est là qu'il a fait une victime collatérale. Monsieur Arnaud, qui avait rien demandé à personne. Randall l'a interpellé. T'as la version 1.3.2 de Mumble? Bah c'est n'importe quoi, tu me télécharges la dernière version, puis tu reviens. Avant ça, tu me parles pas, espèce de cave. Hein. Ah, c'est bien un loser de l'entrepode, hein. Quand tu sais que le meilleur d'entre eux, c'est Nico, c'est de dire le niveau, quoi. Ah bah ça y est, les gars, leur voilà. Ah bah bon, le NAS, tu m'entends, là? C'est quoi cet écho insupportable? Oh, tu vas dans configurer, réglage. Là, tu mets l'annulation multicanaux de l'écho sur désactivé. Ton maintien de la voix, il est bien 0,58? Oh les gars, le loser! Il a son maintien de la voix à 0,47! De toute façon, vu le contenu d'un entrepod, qu'on les entende ou pas, ça changera pas grand chose. Oh l'abruti, t'as une qualité à combien? À 0,96 kilobits? Bon, ça ira pour cette fois, mais qu'on t'y reprenne pas. Hein. Hep, pas si vite. Dernier détail. En ta sortie audio, c'est quoi ton tampon de gig par défaut, là? Quoi? 10 millisecondes? Mais t'es un gueudin! Mais qu'est-ce qu'on va foutre de toi, mon pauvre? Non, pire que des gendarmes appliquant les règles ubuesques du confinement à un pauvre citoyen qui sait pas à quelle attestation se vouer. Bah oui, hein, clairement, quand un podcasteur arrive sur le Mumble de Podren sans être titulaire d'un master d'ingénierie du son, il a l'impression d'être aussi indésirable qu'une femme dans un bar de Sevran. Bah tu te sens pas à l'aise, quoi.
Bois un coup, vas-y.
Pardonnez-moi, je bois un petit coup. Hein. On sait pourquoi leur association s'appelle Bad Geek. Hein. Ce sont des geeks et ils sont méchants. Ah ouais. Non, mais non, en fait, je taquine. On rigole. Hein. Ils sont très sympas à Podren. C'est pas du tout passé comme ça, non. Ils sont hyper bienveillants. D'ailleurs, ils ont pris Monsieur Nico sous leur aile. J'ai pu assister à un vrai coaching personnalisé par Azertov. Ouais. C'est qu'à Bad Geek, ils connaissent le souci de Monsieur Nico, un sorte d'éjaculateur précoce du podcast. Oui, en 2020, nous avions le privilège de recevoir un vrai césarisé en la personne de Vincent Blanchard au micro de l'entrepode. Et voilà qu'aux trois quarts de l'émission, Monsieur Nico, certainement trop excité à force de caresser le César apporté par notre invité, craque bêtement et met fin à l'enregistrement sans que personne s'en rende compte. Et ben à Podren, ils lui ont filé 2-3 trucs de professionnels pour pouvoir boucler ses enregistrements jusqu'au bout. Hein? Ben, tu vois, Nico, le bouton avec le rond rouge, là. Bon, bah ben, ça, t'appuies dessus au début de l'émission, et tu verras, c'est magique, ça lance l'enregistrement. Ouais. Et surtout, t'appuies pas sur le bouton carré, Nico. Non, surtout pas. Non. Et non, Nico, t'appuies pas non plus sur le bouton avec les deux barres parallèles, là. Ça s'épose. Mais je voulais même pas t'en parler pour pas t'embrouiller. Ça sera pour l'an prochain quand t'auras un peu upgradé ton niveau, quoi. Ah, enfin, au moins en laissant la main à ces rustres techos bretons, hein, on est certain qu'on aura un entrepode enregistré du début à la fin. C'est l'avantage. Non, le véritable malaise, c'est quand Monsieur Arnaud est revenu la nuit pour s'entraîner à faire des manipulations sur Mumble sans se faire vilipender ni ridiculiser. Ouais. Débarquant sur le susnommé salon Gribouilly à 2h20 du matin, sans prévenir, il trouve péremptoire David, Azertov et Randall Flagg en grande conversation avec un certain Matayou. Il remarque pas Monsieur Arnaud et il se garde bien d'intervenir dans une conversation un brin mystérieuse dans laquelle il est question d'un explorateur portugais du 15e siècle. Alors il se fait discret. Il y est question de céder les droits de Podren à Magellan. Matcaillou, Magellan. Bah c'est là qu'il a compris. Derrière le pseudo grossier de Matcaillou se cachait Mathieu Gallet. Bah oui, l'ex-président de Radio France et cofondateur de la start-up Magellan. Un honni des purs et authentiques chevaliers blancs du podcast. D'abord, pompeux hanté de flux RSS, leur modèle à Magellan, il a pivoté au bout de 6 mois devant la levée de boucliers des podcasteurs natifs, tellement fiers de rester dans l'ombre, alors même que le charismatique Monsieur Gallet leur offrait la lumière. Magellan, finalement, depuis 2020, ils ont pivoté et ils sont maintenant producteurs de contenu de développement personnel haut de gamme avec des vedettes de télé et de radio pour, je cite, « des urbains CSP++ qui sont en quête de sens et ont besoin d'être inspirés par des personnalités ». Eh ben, figurez-vous que Monsieur Arnaud, il a découvert qu'il s'apprête encore à changer de modèle, hein, Magellan. À force de pivoter comme ça, ils vont finir comme des toupies. Hein. Et en s'associant avec les traîtres de Podren. Ouais, Mathieu Gallet, je veux maintenant s'appuyer sur la fraîcheur du podcast amateur, mais revisité par des vrais pros. Ils vont donc commencer en faisant rejouer ce week-end de Podren, hein, qu'on écoute, par des vraies pointures de l'audiovisuel. Ces salauds de Rennais ont vendu nos contenus à Galet et Perticos pour 3 millions d'euros. Hein, il fallait que ce soit dit. Ah, monsieur Nico, je suis désolé, c'est Koué qui va animer l'Anthropode. Stéphane Bern reprendra le rôle de monsieur Lulu. Le rôle de monsieur Arnaud, hein, il sera tenu par Baptiste Giabiconi, pour trouver le physique le plus approchant possible, mais il cédera sa place pour mon papier à Omar Sy. Ah oui. Pour apporter une dose de bonhomie et de sympathie à mon personnage. Bon, de toute façon, il n'y a plus un projet à succès qui puisse être imaginé sans Omar Sy. Alors, bah, quant à l'intro de monsieur Marius, elle sera reprise par Kenji Girac. Manouche, bien plus bankable que vous, mon pauvre. Ouais. Bah, pour votre chronique, j'en suis désolé, mais elle sera visiblement sacrifiée sur l'autel de la sacro-sainte rentabilité. Ouais. Si chère à ces winners libéraux adeptes de la Startup Nation qui ne prennent aucun risque qui ne soit calculé. Donc, vous comprendrez qu'ils ne reprennent pas votre rubrique, quoi. Bah, il en sera de même pour tous les podcasts présents ce week-end, hein. Je crois que Youpi la vie sera rejoué par Flavie Flamand, Sophie Davant et Cyril Ferraud, et Pod Monstre Trésor par Tex, Bruno Guillon et Virginie Despentes. Une honte, hein. Les Rennais, vous n'avez pas honte d'avoir vendu votre âme au diable? Et quand j'y pense, avec le distanciel, finalement, qui nous dit qu'on est à Rennes? Hein? C'est vrai, ça? Hein, on parlait des complotistes, alors, monsieur Lulu, là. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on est vraiment à Rennes? Ça se trouve, on est victime de malfaisants qui se jouent de notre naïveté. Nous autres podcasteurs en mal de gloire, nous sommes comme de vieux célibataires de la Creuse en mal d'amour. On est prêt à croire à n'importe quel bobard pourvu qu'on nous montre un peu d'attention, quoi. C'est bizarre, quand même, ces messages de Podren sur Messenger, vous trouvez pas? Et, tu sais que j'aime beaucoup ton podcast? Je le trouve très intéressant. J'adore les intros de monsieur Marius. Oh, les Madeleines de Prout de monsieur Lulu, les chroniques, podcasts, séries ou jeux vidéo de monsieur Nico et Arnaud alias JR. Mmh, oh, je le trouve très beau, JR. Mmh. Oh, moi aussi, comme l'anthropode, j'aime Akira, les Charlots, Feu Chatterton, Quentin Tarantino et les Monty Python. Allez, viens passer le week-end avec nous. Au passage, tu mettras dans notre Tipeee. Ah oui, le Tipeee, on est bien placé pour le savoir. C'est le mandat cash du podcast. Ouais. En fait, ça se trouve, on n'est pas à Rennes. David est péremptoire. C'est quand même bizarre que leur adresse IP soit domiciliée en Côte d'Ivoire tout de même, non? Non? Ben, ça se trouve, c'est pas Podren ici, c'est Pod Abidjan. Et en fait, on a affaire à une bande de brouteurs malhonnêtes qui abusent de la crédulité de podcasteurs quadragénaires, voire quinca, hein, monsieur Lulu, en mal d'amour d'auditeurs. Et puis voilà qu'après coup, bah, nous on est tout honteux de s'être ainsi laissé abuser. Ouais. Les gars nous ont roulé avec un pauvre fond d'écran zoom de la rue de la soif et un album de Nolwenn Leroy en fond sonore. Tout ça sur Twitch, devant des milliers, devant des centaines, devant des dizaines, enfin bon, devant des témoins, quoi. Non, ça serait la honte, hein. Ah, monsieur Nico, rien que pour ne plus nourrir ce terrible doute. Vivement l'an prochain, qu'on vienne sur place, à Rennes, vérifier qu'on est bien en terre bretonne et qu'on ne s'est pas fait mener en bateau. Et qu'au fond, les organisateurs de ce festival, fort sympathiques au demeurant, nous apprécient réellement, non pour notre argent, mais pour notre talent. Il y aura à manger, on picolera avec eux, et l'alcool aidant, je suis certain qu'on finira par trouver ça sympa. Merci de votre attention.
Bravo, bravo Arnaud. Eh ben dis donc, quel talent.
Bon ben,
t'as un beau succès sur le chat, hein. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Il y a des gens qui te découvrent et c'est un super papier. Alors le lien n'est pas passé, mais vous pourrez retrouver le spectacle MDR d'Arnaud très prochainement. Alors le temps imparti est arrivé à son terme, donc on va passer sur les coups de cœur, les coups de gueule.
T'es sûr? Non, 3 minutes seulement.
Hein. Non. Il va passer dessus.
On va passer dessus. Donc c'est dire qu'on ne les a pas.
Oui. Ah. Ça veut dire ça.
Ah, d'accord. Vous me dites rien, moi, à chaque fois, putain.
Bah, je l'improvise à l'instant, là. Donc, on arrive à la fin de cet enregistrement. Encore merci à l'équipe de Podren de nous avoir conviés pour l'organisation et la technique.
Merci, les gars.
On ne s'associe pas à ce que vient de dire Arnaud. Pas hier, pardon. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez tout ce dont on a parlé sur l'article de cette émission sur entrepod.fr. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, nous témoigner de votre soutien sur Twitch en laissant un pourboire, qu'il soit ponctuel ou régulier. Sur Apple Podcast et les autres applications de podcast, vous pouvez nous témoigner votre soutien avec des étoiles et des commentaires. Mais le plus important, ce sont vos retours. Comme on l'a déjà dit, vous pouvez nous rejoindre. On a un Discord, un serveur Discord pour échanger, pour partager des bons plans, de la bonne humeur, etc. On se retrouve certainement prochainement. On ne sait pas quand, mais on s'est rendu compte en préparant ce Podren, comme on l'a dit, que en se voyant, ça apportait quand même un petit truc complémentaire qui pouvait compenser l'éloignement. Parce que notre effectif, on est 8 d'habitude, c'est difficile de nous retrouver facilement autour de la table en ce moment. Mais on va peut-être essayer de continuer avec ce format-là. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous trois, les amis.
Merci à tous ceux qui
nous ont suivis. À plus tard et bonne fin de festival surtout.
Bon
à bientôt.
Festival.
Salut.
À bientôt.
Au revoir. Ciao.
Qué sería, 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 qué sería.